Merci, frère. C'est vraiment un privilège que frère Branham vienne si souvent à Phoenix. Je pense qu'il vient à Phoenix plus qu'ailleurs. Et nous voulons qu'il continue à venir, tant que je suis ici, en tout cas. Que Dieu vous bénisse, frère Branham. Merci. Merci, frère Williams. Bonjour, mes amis. Je suis, en ce qui concerne la famille Chakarian, frère Williams, sœur Williams et beaucoup d'autres personnes ici le savent. J'ai vu cela dans une vision environ 2 ou 3 ans avant qu'elle tombe malade. Et c'est arrivé. Et l'année dernière, quand nous étions ici, je crois que c'était en janvier, à la convention, la fois où ce prêtre, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom maintenant, était ici. Stanley, l'évêque Stanley de l'Église catholique. Vous vous souvenez quand il m'a apporté la Bible, vous savez, il m'a dit, il y en avait plusieurs qui prophétisaient, « Ma fille, tu es guérie. » Et cet homme savait que la vision avait dit qu'elle ne se rétablirait pas. Elle mourrait entre 2 et 3 heures du matin. Vous souvenez-vous de ça? Donc, 2 ou 3 heures. Et je ne pouvais pas le dire à Demos. Par contre, je l'ai dit à sa belle-mère, juste là, dans la pièce, celle qui est juste là en face. J'ai dit, elle ne va pas se rétablir. Madame Chakarian a dit, eh bien, tout le monde prophétise. J'ai dit, bien sûr, je pourrais me tromper moi-même, mais c'est ce que j'ai dit, elle ne se rétablira pas. Il y a environ 3 ans, j'ai dit à beaucoup d'entre eux, je l'ai vue lutter contre la mort, et elle s'est étendue sur un lit. Elle a levé les mains et a crié vers moi, comme ça, et je ne pouvais même pas me rendre jusqu'à elle. Puis, je l'ai vu mourir. Et quand j'ai regardé, il y avait quelque chose. Il y avait une horloge qui indiquait que ce serait entre 2 et 3 heures. Et l'évêque a donc dit, « Eh bien, je vais juste observer pour voir comment cela s'accomplira. » Donc, cela s'est accompli. Nous sommes vraiment désolés. Je pense que l'Église a perdu quelqu'un de formidable en la personne de sœur Florence Chakarian. Or, c'était une grande chanteuse, c'était une femme remplie de l'esprit. J'étais avec sa mère. Sa mère a été l'un des premiers contacts que j'ai eus sur la côte ouest, quand sa mère avait été guérie, quand les médecins, elle était dans le coma, tout enflé. Et donc, le médecin qui était là m'avait parlé en ces termes, « Bon, restez bien tranquille quand vous prierez, ne faites pas beaucoup de bruit, cette femme se meurt. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Et il a dit, puis il n'arrêtait pas de me le dire. Et, eh bien, je n'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir la bouche, disons. Alors, c'est frère Demos qui m'avait dit de monter et d'aller la voir. Je suis donc allé à l'étage. Et Florence, qui était à l'époque une jolie petite fille, était à genoux sur le sol. Et d'autres femmes étaient présentes. Je suis allé prier pour elle et je le lui ai dit. Elle était inconsciente. Je lui ai dit qu'elle se relèverait. Et c'est ce qui est arrivé. Quelques années plus tard, elle est morte. Alors Dieu répond à nos prières. Et nous savons que nous croyons que nous sommes tous venus ici par la volonté de Dieu et que nous repartirons de la même manière. Un par un, chacun de nous franchira ce portail. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici ce matin, dans cette association des hommes d'affaires chrétiens, afin de parler de ces choses et de nous y préparer, parce que nous savons qu'elles vont certainement arriver. Bon, sœur Florence était une jeune femme de 42 ans, comme vient de me le dire frère Williams. Elle était très jeune, mais avant qu'il... Elle savait qu'elle avait cette maladie. Eh bien, j'avais eu une vision d'elle où on me disait ce qui allait lui arriver. Alors ce serait... Dieu est au courant de tout. Et elle a vu Jésus dans la pièce avant de partir. Nous ne voulons pas prier pour elle. Parce que nous l'avons tant fait, nous voulons simplement remercier Dieu pour une vie qui a été parmi nous et qui nous a tous inspirés, la vie de sœur Chakarian. Et nous voulons prier pour frère Demos, sœur Rose. Rappelez-vous qu'ils ont eu un coup très dur dans leur vie ces dernières. Il y a eu son père et maintenant sa sœur dans ces dernières années. Mais, et oui, moins 10 mois. Et sœur Edna aussi. Donc, j'éprouve de la compassion pour frère Demos. J'ai eu un père, un frère, une femme et un bébé qui sont partis à quelques jours d'intervalle. Donc, je sais ce qu'il ressent ce matin. On ne comprend cela que lorsqu'on a vécu la même chose. C'est là qu'on peut en comprendre la douleur. Et c'est moi-même qui ai fait cela, excusez-moi. J'ai touché un petit truc quelque part ici, avec ma main. Donc je suis désolé de l'avoir fait résonner trop fort. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, levons-nous maintenant pendant que nous, si vous pouvez, si c'est, courbons la tête. Père Céleste, nous sommes rassemblés ici ce matin pour t'adorer, pour te rendre grâce et te louer d'avoir envoyé Jésus, notre Rédempteur, afin de nous donner une espérance à l'issue de cette vie, puisque c'est très improbable que nous vivions toujours ici. Et Père, quand nous voyons les conditions misérables dans lesquelles ces corps peuvent se retrouver, nous sommes heureux de ne pas avoir à rester ici pour toujours. Tu as fourni un moyen d'y échapper, la vallée de la mort. Et Père, nous te sommes reconnaissants ce matin pour la vie de celle qui s'est tenue ici parmi nous il y a moins d'un an, pour te chanter des louanges, Sœur Florence Chakarian, comme nous la connaissions. Et tu nous avais dit bien longtemps avant, même depuis des années, que ceci arriverait, afin que ce ne soit pas un trop grand choc pour nous. Et nous savons que ce que tu dis est vrai. Et aussi, ta parole dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Nous savons que c'est aussi vrai, Seigneur. Nous savons que nous devons tous passer par cette vallée. Aussi te remercions-nous de la vie qu'elle a vécue ici sur terre. Et nous croyons par la foi que maintenant, ce matin, elle est passée de cette misérable maison de pestiférés à un corps glorieux qui ne pourra jamais être malade. Ses talents de chanteuse, la voix qu'elle avait et son esprit baignaient dans l'abondante grâce de Christ. Si elle pouvait revenir ici ce matin, elle ne le ferait pour rien au monde, car elle devrait vivre tout cela de nouveau. Alors, tout cela est terminé maintenant. Elle est avec sa mère et son papa. Ils ont rappelé leur enfant à la maison. Donc nous te remercions. Nous voulons aussi te prier de consoler notre frère Chakarian, notre cher frère bien-aimé, connaissant la vie qu'il a vécue, les tourments qu'il a ces derniers temps et l'état dans lequel il se trouve. Nous le voyons prendre de l'âge, il perd ses cheveux, ses épaules s'affaissent, et malgré cela, il essaie de rester sur le champ de mission pour la cause de Dieu. Ô Dieu, donne-lui la force aujourd'hui. Nous te prions, ô Dieu, de lui accorder cela. Vous tous qui êtes dans le deuil à cause de son départ, nous prions pour chacun de vous. Seigneur, alors que nous pensons à ceci, fais que nous nous rappelions que nous aussi, nous devrons partir un de ces jours. Pendant que nous sommes assis ensemble ici, dans la présence du Seigneur Jésus, nous te prions de faire en sorte que cela soit frais dans notre mémoire. Accorde-nous de nous examiner, pour ainsi dire, de faire l'inventaire de notre propre vie, afin de voir si nous sommes sous le sang et dans la foi. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, compte tenu de ces circonstances, alors que je vais essayer d'apporter un petit message aux gens aujourd'hui, je te prie de m'aider, Seigneur. Fortifie-moi, car j'en ai besoin, Seigneur. Et je te prie d'accorder cela, que quelque chose soit dit pour t'honorer. S'il y a quelqu'un qui entend le son de notre voix ce matin et qui n'est pas prêt à affronter l'heure qui est devant lui, que ce soit le moment où il s'abandonne à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, car nous le demandons en son nom. Amen. » Veuillez vous asseoir. Le frère veut savoir si tout le monde entend très bien. Il a allumé deux micros. Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez? Si oui, levez la main. Est-ce que vous entendez? Levez la main. Très bien. Je suis désolé que nous n'ayons pas de place assise pour tout le monde ce matin. Espérons que je ne reste pas trop longtemps ici, que je reste peut-être juste assez longtemps pour nous apporter peut-être la lecture de la parole, que le Seigneur Dieu honorera sa parole qui sera lue et nous accordera sa grâce, afin que nous puissions le servir par elle. Maintenant, ce matin, Billy Paul m'a dit qu'il se peut que dimanche prochain, nous allions prêcher à l'Assemblée de Dieu de Grant Way, à Tucson. S'il y en a ici qui sont de Tucson, il se peut que je ne vous voie pas cette semaine. Je serai à l'Assemblée de Dieu de Grant Way dimanche prochain. Bon, nous venons de rentrer de l'Est, et je suis un peu épuisé. J'ai trop mangé à cause de l'extrême gentillesse des gens des montagnes, et je suis tombé malade. Je ne me suis donc pas bien senti cette semaine. Alors, priez pour moi. Et que dites-vous? Frère Carl Williams aime bien faire un peu d'humour, et je pense que nous en avons besoin en ce moment. Il a dit « trop d'opossum ». Je ne sais pas trop, frère Carl, mais beaucoup d'écureuils. Alors, si vous voulez prier pour quelqu'un ce matin, eh bien, je serais vraiment heureux qu'une partie de votre prière soit en ma faveur, parce que j'en ai besoin. Maintenant, sans plus tarder, nous voulons aborder la parole. Je ne veux pas vous garder ici trop longtemps, parce que je crois que ce matin, les gens nous sont reliés par téléphone, partout au pays, pour écouter ceci, partout, de la côte ouest jusqu'à la côte est, du nord au sud. De très nombreuses assemblées ont obtenu cet équipement que vous avez tous ici au tabernacle. On est aussi relié aux gens de Phoenix. Partout où il y a des services, ils reçoivent directement les gens se rassemblent dans des églises, dans des maisons et ainsi de suite, et se connectent grâce à la très bonne qualité des ondes. Ils disent que c'est encore mieux qu'une émission radio diffusée. C'est par la liaison téléphonique. Ils placent un récepteur ou un microphone ou quoi que ce soit d'autre dans la pièce. Et la semaine passée, quand je quittais l'Indiana pour Tucson, ma femme a dit que c'était exactement comme s'il était dans la salle. Nous prions donc que Dieu bénisse tous ceux qui nous sont reliés ce matin, où qu'ils soient. Là-bas, à New York, ce serait maintenant l'après-midi. Et à travers le pays, les gens sont à des heures différentes. Maintenant, prenons l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est ce passage de l'Écriture que nous souhaitons lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, bon, agréable et parfait. Maintenant, si le Seigneur le veut, je veux prendre comme sujet pour ce matin la puissance de Dieu pour transformer, afin que vous ne vous conformiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, et que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est un texte que vous connaissez très bien et que beaucoup de vos pasteurs ont utilisé en exerçant leur ministère. On a utilisé ce passage de la Bible depuis qu'elle a été écrite. Il y a cependant une chose au sujet de la parole de Dieu. Elle ne vieillit jamais, parce que c'est Dieu. Elle ne vieillit jamais. Dans toutes les générations, depuis près de 2800 ans ou plus, cette parole de Dieu a été lue des hommes, des prêtres et tout, mais elle ne vieillit jamais. Moi-même, je la lis depuis plus de 35 ans, et chaque fois que je la lis, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu la première fois. Parce qu'elle est inspirée, c'est Dieu sous forme écrite. Vous voyez, elle est l'expression des attributs de Dieu mis sur papier. Bien des fois, des gens ont dit, « Eh bien, maintenant, ce sont des hommes qui ont écrit cette Bible. » Non, la Bible déclare elle-même que c'est Dieu qui a écrit la Bible. C'est la parole de Dieu. Elle ne peut jamais faillir. Jésus a dit, « Les cieux et la terre failliront, passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. » Comme c'est Dieu, elle ne peut pas faillir, parce qu'elle fait partie de lui. Et vous, puisque vous êtes ses fils et ses filles, vous en faites partie. Et cela fait de vous une partie de lui. C'est donc pour cela que nous venons communier ensemble autour de la parole de Dieu. Maintenant, ce mot « transformer », je l'ai cherché dans le dictionnaire hier. Là, j'ai presque perdu la notion du temps, l'heure où je devais être ici, pendant que je cherchais un sujet. Et j'ai donc trouvé ce mot, ou plutôt ce texte, ce passage de l'Écriture. Et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a été changé. C'est d'être changé, transformé, devenu différent de ce que c'était, qui a été, dont le caractère et tout ce qu'il y a à l'intérieur a été changé, transformé. Et ce matin, je pense à Genèse 1. Le monde était informe et vide, et les ténèbres recouvraient la terre. Ce n'était rien d'autre qu'un chaos généralisé. Pendant que ce monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et tout le tableau a été changé, passant d'un chaos généralisé en un jardin d'Éden. C'est ça, la puissance transformatrice de Dieu. Elle peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. La puissance transformatrice de Dieu. Et en lisant les Écritures, nous comprenons que Dieu a mis 6 000 ans à préparer cet Éden. Bon, il se peut qu'il n'y ait pas mis tout ce temps. C'est juste une présomption que je tire des Écritures, où il est dit qu'un jour chez Dieu, c'est 1 000 ans sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu comptait le temps. Disons qu'il ait mis 6 000 ans à créer la terre et qu'il ait planté sur la terre toutes les bonnes semences. Tout ce qui s'y trouvait était parfait. Je pense que bien des fois, quand les critiques eux-mêmes se mettent à lire le livre de la Genèse, ils se mettent à critiquer cela parce que c'est comme si ça se répète constamment ou que de temps à autre, ça manque de cohérence. Mais avant d'entrer dans notre sujet, prenons juste un moment pour faire remarquer que Moïse a eu la vision et Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Moïse face à face, de bouche à oreille. Or, il n'a jamais parlé à un autre homme comme cela, comme il l'a fait avec Moïse. Bon, Moïse était un grand, l'un des plus grands de tous les prophètes. Il était un type de Christ. Donc, Dieu peut parler, il a une voix, elle s'est fait entendre. Dieu peut parler, Dieu peut écrire. Dieu a écrit les 10 commandements avec son propre doigt. Une fois, il a écrit sur les murs de Babylone avec son doigt. Une fois, il s'est baissé et a écrit sur le sable avec son doigt. Dieu peut parler, Dieu peut lire, Dieu peut écrire. Dieu est la source de toute grâce et de toute puissance. Toute sagesse divine est en Dieu. Nous savons donc qu'il est le seul créateur qui soit. Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Satan ne peut pas du tout créer. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Mais Dieu est le seul créateur. Par conséquent, il a créé par sa parole. Il a envoyé sa parole. Ainsi, toutes les semences qu'il avait placées sur la terre, c'est par sa propre parole qu'il a formé toutes ces semences, car il n'y avait rien d'autre dont on pouvait tirer une semence. Il les avait placées et elles étaient sous les eaux. Il a simplement dit que ceci soit, que cela soit. Or, nous voyons que bien des fois, c'est comme si la Bible répétait ou disait quelque chose qu'en fait, elle ne dit pas. Par exemple, dans Genèse 1, nous voyons que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Il a continué et beaucoup de choses se sont passées sur la terre. Puis nous voyons qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Cet homme-là était un homme différent. Il souffla en lui l'esprit de vie et il devint un être vivant. Le premier homme était à l'image de Dieu, lequel est esprit. Jean 4 dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Mais Dieu est esprit, et le premier homme qu'il a créé était un homme esprit. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis, il a mis cet homme-là dans la chair, et l'homme est tombé. Alors Dieu est descendu et a pris l'image de l'homme, afin de pouvoir racheter cet homme déchu. Voilà la véritable histoire de l'Évangile, à mon avis. Maintenant, en 6000 ans, Dieu a planté toutes ces merveilleuses semences. Il a prononcé sa parole. Ça sera comme ceci. Cet arbre sera. Ceci sera. Tout était parfait. C'était vraiment bon. Et il a ordonné à chacune de ces semences d'être, de se transformer pour devenir la plante qui reflète le genre de vie que la parole de Dieu avait annoncé qu'elle serait. Si c'était un chêne, elle devait produire un chêne. Si c'était un palmier, elle devait produire un palmier. En effet, le grand Créateur avait tout simplement envoyé sa parole, et la semence parole était là avant que la vraie semence soit formée. Et c'est la parole qui a créé la semence. Vous voyez, il a créé le monde à partir des choses qui ne sont pas visibles. Vous voyez, il a créé le monde par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Et comme Dieu, le Créateur, avait créé toutes choses par sa parole, ce devait être un monde parfait. C'était un lieu magnifique. C'était un véritable et authentique paradis ici, sur terre. Maintenant, il faut bien que tout lieu ait un quartier général quelque part. Cette convention a un quartier général. Ce chapitre a un quartier général. Et une église a un quartier général. Et Dieu a un quartier général. Donc, ce grand pays, cette nation dans laquelle nous vivons, a un quartier général. Donc, ce grand Éden avait un quartier général. Et ce quartier général se trouvait dans le jardin d'Éden, ou en Éden, à l'est, dans le jardin. Et pour diriger toute sa grande création ici sur terre, Dieu a établi son fils et l'épouse de son fils, Adam et Ève. Dieu était le père d'Adam. Adam était le fils de Dieu, selon les Écritures. Il était le fils de Dieu. Et Dieu lui a fait une aide tirée de son propre corps. Peut-être à partir d'une côte située près de son cœur, pour qu'elle soit proche de lui. Il lui a fait une aide. En fait, elle n'était pas encore sa femme. Tout comme lui, il n'était pas encore homme. Dieu avait juste prononcé la parole. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Satan l'a trouvé avant Adam. Donc, c'était juste sa parole qu'il avait prononcée. Ce que je viens de dire, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais certains d'entre vous pourraient être un peu confus, surtout certaines personnes dans au sud, pour qui ceci semble un peu confus. Ce message de Dieu que j'ai reçu pour aujourd'hui, afin de l'apporter aux gens, au sujet de la semence du serpent. J'irai chez moi, à Jeffersonville, un de ces jours, si le Seigneur le veut. Je désire apporter un message d'environ 6 heures pour tirer tout cela au clair, voyez, pour présenter cela de manière que vous compreniez ce dont nous parlons. Et c'est ainsi dit le Seigneur. C'est tout aussi vrai que quand j'ai vu notre sœur Florence, plusieurs années avant son départ. Vous voyez, c'est la vérité. Et maintenant, nous, peut-être que c'est mal compris. Si quelqu'un venait vers moi avec quelque chose qui est contraire, moi aussi, en quelque sorte, je le comprendrais mal. Je ne voudrais pas critiquer ce que quelqu'un dit. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Je ne suis pas coupable de cela. Je remercie le Seigneur. En fait, j'ai critiqué le péché et l'incrédulité, mais pas des individus. Voyez, je ne le fais pas. Nous sommes des frères et sœurs qui luttent. Nous allons là où sœur Florence est allée hier matin. Voyez, elle, nous devons tous en arriver là. Et mon but n'est pas de chercher à critiquer un frère ou une sœur qui ne serait pas d'accord avec nous. Non, loin de moi la pensée de faire ça. Je ne pense pas que vous trouverez une seule bande dans laquelle j'ai cité le nom de quelqu'un. Pourtant, il m'est arrivé bien des fois de penser qu'une personne était dans l'erreur. Mais ça, c'est entre elle et Dieu. Mais ce qui est mal, en ce qui concerne le péché, une mauvaise compréhension, parfois, ce n'est même pas un péché. C'est juste dû à la mauvaise compréhension des gens. Et je pense que chacun de nous a le droit de s'exprimer selon sa conception des choses. Bon, ce grand créateur avait établi le fils qu'il avait créé. Eh bien, Adam était le premier fils qu'il avait créé. Jésus était l'unique fils qu'il avait engendré. Voyez, il l'avait engendré par une femme. Mais Adam est issu directement de la main de Dieu à la création. Maintenant, dans ce quartier général où son fils et l'épouse de son fils avaient été établis sur toute chose, tout semblait si parfait. À la tête de tout cela, il y avait un homme, son propre fils et son épouse. Et chaque semence était parfaite. Les palmiers, les chênes, l'herbe, les oiseaux et les animaux. Et chaque chose était dans un ordre parfait, selon le commandement de Dieu. Ne change pas ta nature. Que chaque semence produise selon son espèce. Chêne, ne te pervertis jamais en papayer. Voyez, palmier, ne te pervertis pas en autre chose, mais que chaque semence soit selon son espèce. Et il l'avait observé au fil du temps. Il avait prononcé la parole. Sa grande puissance créatrice avait formé ces choses qui avaient paru, et même l'homme et la femme. Et ils étaient la tête, parce qu'ils étaient ils étaient supérieurs à toutes les autres espèces. Et il les avait aussi mis sous la protection de la même chose sous laquelle il avait mis les arbres, les animaux et tout, sa parole. Il ne devait jamais et en aucun cas briser cette parole. Il devait s'en tenir à cela. N'en retranchez jamais quoi que ce soit ou n'y ajoutez jamais quoi que ce soit. Vous devez vivre par cette parole. Et aussi longtemps que cette création serait restée ainsi, Sœur Chakarian ne s'en serait pas allée ce matin, tant que ce serait resté ainsi. La grande économie de Dieu, c'est ce vers quoi nous croyons nous diriger. Nous retournons à ce point-là, à cette position-là, à ce septième matin où Dieu a regardé tout cela et a dit, « C'est bon, j'en suis satisfait. Oui, je suis content de l'avoir fait. Et tout est maintenant sous contrôle. J'ai confié le tout à mon fils et à sa femme pour qu'ils... Je les ai établis à la tête de tout cela, pour qu'ils veillent à ce que tout aille bien, de sorte que chaque chose produise selon son espèce. Maintenant, il a le pouvoir de faire cela. Puis Dieu a dit, « Eh bien, si tout est si bon, il ne peut en être autrement, parce que là, c'est mon propre désir. Je veux que ce soit comme ça. C'est ainsi que je l'ai formé par ma parole, et ma parole l'a créé exactement comme je le voulais. » Voilà, c'est très bien. Ainsi, la Bible dit, « Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le septième jour. Et tout était sous contrôle pour reproduire selon son espèce. Maintenant, souvenez-vous, pour reproduire, comme il a mis la semence dans la terre, cette semence ne peut germer que par la puissance de la vie qui est en elle. C'est elle qui transforme cette semence en une plante ou quoi que ce soit d'autre. Sa puissance transformatrice. Maintenant, Dieu a placé cette semence là-dedans. Et elle a le potentiel de devenir ce qu'il a dit qu'elle serait. Et tant qu'elle demeurerait dans la catégorie qu'il faut, elle serait exactement ce que Dieu a dit qu'elle serait. Il devait en être ainsi, parce qu'il l'avait faite ainsi et avait créé un canal. Ainsi, tout ce qui demeure dans son canal, dans la ligne de sa parole, produira exactement ce que sa parole a dit qu'il produirait. Ça ne peut pas manquer d'arriver. C'est canalisé exactement comme il faut. Ainsi, après avoir tout confié à son propre Fils pour qu'il en soit ainsi, Dieu a donc dit, « Tout est très bon, je vais tout simplement me reposer. » Chacune de ces semences a la puissance en elle-même pour se transformer en l'espèce que je désire qu'elle soit. C'est ce qu'elle doit être, parce que j'ai pourvu chaque semence de puissance transformatrice, afin que d'elle-même, là, c'est son potentiel, afin que d'elle-même, elle devienne exactement ce que je veux qu'elle soit. Dieu n'a jamais changé. Il est le même aujourd'hui qu'il était à cette époque-là. Dieu est déterminé à faire quelque chose. Il le fera. Rien ne pourra l'arrêter. Il le fera. Maintenant, après que tout a été mis en ordre et que c'était très bien, Dieu était maintenant certain que tout irait bien. Et après l'avoir fait, c'est là que l'ennemi est arrivé. Dieu a donné la puissance pour transformer. Je vais dire que ce type a la puissance, non pas de créer à nouveau, mais il avait la puissance pour déformer. Non pas transformer, mais déformer. Or, tout ce qui a été déformé n'est plus dans son état originel. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelques années, lors d'une patrouille, je traversais les champs de maïs. Je pense qu'il y avait là une branche d'arbre qui s'était rompue et qui était tombée sur une tige de maïs. Et cette tige faisait tout son possible pour revenir à la position verticale, comme elle était censée l'être. Mais elle était déformée parce que quelque chose lui était arrivé. Cette branche était couchée là-dessus. Et dans les champs, il y a des plantes grimpantes. Bon nombre d'entre vous, les hommes qui sont ici, et peut-être certaines d'entre vous, les femmes, si vous venez du Kentucky, là-bas, les femmes utilisent la binette, tout comme les hommes. On va dans le champ avec une binette que nous appelons la binette à col de cygne pour couper ces plantes grimpantes. En effet, si on n'enlève pas ces plantes grimpantes au milieu des rangées de maïs, comme ceci, alors cette plante grimpante atteindra le maïs, s'y accrochera et s'enroulera progressivement autour de la tige, si facilement et si sournoisement que vous ne remarquerez même pas qu'elle s'enroule. Et elle deviendra ensuite de plus en plus forte et exercera sur ce maïs une telle pression qu'il finira par se déformer. Elle le tirera vers elle-même et s'enroulera autour de lui. Elle le déformera. De ce qu'il était, il deviendra autre chose. Il demeure cependant du maïs, mais du maïs déformé. Nous tous, nous sommes toujours à l'image de Dieu. Mais certains sont tellement déformés en tant que fils de Dieu qu'ils vont à l'encontre de sa parole et de la voie qu'il a tracée et a pourvue afin que nous y marchions. Le monde a mis en place quelque chose qui nous déforme, nous éloigne du chemin et qui nous attire à lui, loin de ce chemin étroit et resserré dans lequel il nous avait plantés pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Le péché a fait cette chose mauvaise aux fils et aux filles de Dieu. Le déformateur. Je sais que ça a l'air plutôt étrange d'en parler de cette façon, de déformer, mais c'est ce qu'il était. Il a déformé ou perverti. Pervertir signifie faire changer, rendre quelque chose différent. Et déformer, c'est la même chose. On a pris une chose et on l'a déformée et on l'a modifiée. Pourtant, c'est toujours la même semence, mais elle est déformée. Maintenant, nous voyons que ce déformateur, il a eu le même espace de temps pour déformer que Dieu avait eu pour transformer. Donc, il a planté sa semence, ou Il n'a jamais planté de semence dans le jardin d'Éden. Depuis ce moment-là, il a eu 6000 ans pour déformer la semence de Dieu, la parole de Dieu, pour la déformer, en faire quelque chose de différent. Quand la première fois qu'Ève l'a écouté, elle n'a accepté qu'une toute petite phrase. Souvenez-vous, Satan a d'abord cité cette écriture le plus clairement possible. Dieu a-t-il dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin d'Éden ?» Voyez, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres ?» Et souvenez-vous maintenant, Ève a dit, « Oui, nous pouvons manger de tous les arbres, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne devons même pas y toucher. » Maintenant, observez bien le message qu'il a apporté. Il a tordu le sens de la parole juste un peu. Il a dit, Ève a dit, car Dieu a dit que si nous faisons cela, ce jour-là, nous mourrons. Il a dit, oh, vous ne mourrez point. Voyez, c'était un homme. Il a dit, vous pouvez le faire maintenant. Et vous êtes des gens un peu ignorants. Vous, en réalité, vous ne savez pas toutes choses. Mais si seulement vous preniez part à ceci, alors vous auriez de la sagesse, vous auriez de la connaissance. Vous distingueriez le bien et le mal, et vous seriez comme des dieux. Vous, si seulement vous preniez part à cette sagesse que j'ai, je connais ces choses, mais vous, non. Eh bien, il n'y a pas de mal à avoir de la sagesse. Mais si cette sagesse est contraire, si cette sagesse n'est pas la sagesse correcte qui vient de Dieu, la sagesse divine, et qu'elle devient une sagesse naturelle, peu m'importe le niveau de nos connaissances scientifiques, de notre instruction, et que sais-je encore, c'est du diable. Je vais vous le prouver, si le Seigneur le veut, dans quelques minutes. C'est du diable. La civilisation est du diable. Je viens de prêcher là-dessus. Toute culture sur la terre, tous les pouvoirs de la science et tout, c'est du diable. C'est son évangile qu'il avait prêché dans le jardin d'Éden, la connaissance. Et il a pris cette connaissance, une connaissance pervertie, contraire à la parole, à la volonté et au plan de Dieu. Et maintenant, il a eu 6000 ans pour faire exactement ce que Dieu a fait, mais d'une manière pervertie. Et il a pris le même espace-temps pour produire son propre Éden. Maintenant, il a un Éden ici sur terre, et c'est plein de sagesse, de connaissance. C'était ça, son évangile au commencement. La connaissance, la sagesse, la science. Jamais Dieu n'a approuvé de telles choses. Et je veux vous faire observer ceci un instant. Il a fait cela parce qu'il était un homme rempli de sagesse mondaine. Maintenant, c'est difficile de le dire. C'est très difficile. Parce que je parle à des gens qui ressentent la même chose que moi. Et c'est ainsi que je me sens depuis bien des années. Mais depuis l'ouverture des sept sceaux par ces anges, là, derrière la montagne, ceci est devenu un nouveau livre. Ce sont les choses qui étaient cachées. Elles ont été révélées comme Dieu a promis qu'il le ferait dans Apocalypse 10. Et nous sommes le peuple privilégié que Dieu a choisi sur la terre afin de nous faire voir et comprendre ces choses. Ce n'est ni un mythe, ni la pensée charnelle de quelqu'un qui cherche à inventer cela. C'est la parole de Dieu rendue manifeste qui prouve que c'est vrai. C'est prouvé que c'est vrai, non pas par la science, mais par Dieu. Dieu, comme je l'ai déjà dit dans un message, Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il dit que quelque chose arrivera, et cela arrive. Autrement dit, il confirme cela, et c'est ça l'interprétation. Il y a quelques années, quand nous, les pentecôtistes, quand les autres églises nous taxaient de fous, nous ne pourrions pas, le Saint-Esprit relevait du passé. Mais nous avons vu que la promesse de Dieu s'adresse à celui qui le veut. Et maintenant, nous savons ce qu'il en est. Vous voyez? Et c'est petit à petit que cette chose s'est dévoilée. Et maintenant, il a promis que les mystères qui étaient cachés dans tous ces âges de l'Église seraient révélés, tout juste au temps de la fin. Et il nous le fait savoir maintenant. Nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes maintenant. Maintenant, Satan est l'auteur de la civilisation. Il est l'auteur de la science. Il est l'auteur de l'instruction. Vous dites, est-ce vrai? Très bien. Lisons maintenant dans la parole de Dieu, dans Genèse 4. Revenons voir en arrière juste un instant. Je sais que je peux, si je suis trop long, frère Karl me le dira probablement. Mais là, dans Genèse, chapitre 4, verset 16, on continue de raconter là ce qu'au commencement Dieu a fait pour maudire l'homme et la femme, et toute l'œuvre de leurs mains, non pas les maudire, eux, mais leur dire ce qui allait arriver, et maudire le seul à cause d'Adam. Et maintenant, nous voyons ici qu'Ève a eu des jumeaux. L'un d'eux était de Satan, et l'autre était de Dieu. Là, vous dites, « Oh, oh, non !» Eh bien, frère Branham, juste un instant, trouvez-moi un seul passage de l'Écriture, n'importe lequel, qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Je vous montrerai dans l'Écriture où elle dit, « Caïn était du malin, pas d'Adam. » Maintenant, remarquez quand elle a conçu ici. Nous commençons d'abord au chapitre 4. Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé, c'est elle qui parle là, j'ai formé un fils avec l'aide de l'Éternel. Bien sûr, il ne pouvait en être autrement. Peu importe si c'était une prostituée ou quoi que ce soit d'autre, il fallait que ça vienne de Dieu, voyez, parce que c'est sa semence, c'est la loi de sa semence. Elle doit se reproduire. Peu importe si c'est une semence corrompue, une semence pervertie ou quoi que ce soit d'autre, elle est censée se reproduire de toute façon. C'est son commandement. Elle enfanta encore son frère Abel. Il ne l'a plus connu. Adam a connu sa femme. Elle a enfanté Caïn et a aussi enfanté Abel, des jumeaux. Satan était allé avec elle ce matin-là et Adam l'après-midi. Observez la grande polémique qui a cours en ce moment dans les journaux, ici à Tucson, je crois, au sujet de cette femme qui a donné naissance à un enfant de couleur et à un enfant blanc en même temps. Elle avait été avec son mari ce matin-là et avec l'autre homme l'après-midi. Et cet homme s'occuperait de... L'homme blanc a dit qu'il s'occuperait de son propre enfant, mais que l'homme de couleur devrait s'occuper du sien. Voyez? Je sais que dans la reproduction des chiens et autres, cela peut tout à fait arriver si on les croise en l'espace de quelques heures. Ceci en est la preuve. Maintenant, pour montrer d'où vient la civilisation, lisons maintenant ici dans la Genèse, dans Genèse chapitre 4, encore une fois, et voyons cela. Le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de Dieu et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est là que la civilisation a commencé. Le docteur Scofield, ici dans ma Bible Scofield, il a dit « la première civilisation ». Remarquez, il a engendré des fils par la suite, et ils ont fabriqué des orgues et des instruments de musique. Le suivant a engendré des fils, et il s'est mis à fabriquer d'autres choses, à faire des merveilles. Ils ont bâti des villes, et ont fabriqué des instruments d'airain, et toutes sortes de choses. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait. Il a fait naître la première civilisation qui était caïnite. C'est la même chose qu'il a faite tout au long des âges. Maintenant, allons au verset 25 pour voir ce qui s'est passé ensuite. Adam connut encore sa femme. Alors elle enfanta un fils. Elle appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, du côté de Seth, pas du côté des Caïnites. Voyez? Ce grand intellect auquel nous tous nous accordons tant d'importance, le communisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quel est son Dieu? C'est l'intellect, la science. Que faisons-nous de toute façon? Où vivons-nous? Prenez ces paroles en considération aujourd'hui. Maintenant, il a son jour d'Éden. Satan en a un maintenant. Au cours de ces 6000 ans, il a formé, pas créé, mais il a déformé toute la terre de Dieu, ses créatures, les animaux, par des croisements, l'hybridation, les arbres, les plantes, les humains, même la religion, la Bible, l'Église, jusqu'à ce qu'il se soit donné un jardin d'Éden complet par la science. Tout se fait par la science. Nos automobiles, tout ce que nous avons nous a été donné par la science, ce que l'homme a fait. Et il a ici son grand Éden pour prouver que le message est opportun, pour prouver que ce n'est pas pour un autre âge, mais que c'est Apocalypse 10. Regardez l'hybridation aujourd'hui. C'est pour rendre meilleur, ou plutôt plus beau, pas meilleur. Regardez les petits-enfants aujourd'hui. J'ai amené ma fille chez le dentiste hier, et il a dit que ses dents se désalignaient. Un frère à Tucson, frère Norman, avait une petite fille dont les dents poussaient de travers. Et le dentiste a dit que bientôt, qu'il croit qu'il se peut que dans le futur, les gens naîtront et leurs dents pousseront à tort et à travers. C'est à cause de la nourriture que nous mangeons, la nourriture hybride. Avez-vous lu l'article qui traitait du noble évangéliste Billy Graham dans le Reader's Digest le mois dernier? L'avez-vous déjà écouté? Je prie pour lui maintenant plus que jamais. Quand il a parlé à ses cols retournés et tout l'autre soir, et qu'il s'en est pris au clergé, quelque chose lui est arrivé. J'espère qu'un de ces jours, il verra sa position, là où il en est. Remarquez maintenant, l'appel est lancé de Sodome, cette ville pervertie. Et maintenant, remarquez que dans le Reader's Digest, Billy était devenu si faible qu'il ne pouvait même pas tenir ses réunions. Et on lui a recommandé de courir, de faire de l'exercice et tout. Donc, il parcourt 1,5 km chaque jour, je crois, ou quelque chose comme ça, pour faire de l'exercice. L'homme est pourri. Toute la race humaine est corrompue. Tout est comme à l'époque antédiluvienne. Tout est sens dessus-dessous, bouleversé, différent du sillon droit dans lequel Dieu les avait plantés. Le péché, par la science et la tromperie, a tordu toute la race humaine. Avez-vous lu, juste en dessous de cet article aussi, où il était dit, « De nos jours, les petites filles et les petits garçons atteignent physiquement l'âge mûr entre 20 et 25 ans. » Pensez-y. L'autre soir, pendant le discernement, j'ai identifié une fille de 22 ans qui avait sa ménopause. Je l'ai interpellée, et c'est ce que son médecin lui avait dit. Vous voyez, c'est une race déchue, dégénérée, corrompue, qui se dirige vers l'enfer. Je sais que cela ne semble pas éthique, mais c'est biblique. Voyez, c'est vrai. Cette race dans laquelle nous vivons, cette génération de gens. Bon, remarquez, aujourd'hui, on hybride le bétail, on hybride les plantes. Et la science fait volte-face, cette même science qui fait ces choses pour dire « c'est ce qui détruit toute la race humaine ». Vous l'avez lu, tout comme moi. Eh bien, pourquoi n'arrêtent-ils pas cela? C'est parce qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. La parole de Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Mais s'ils s'arrêtaient un instant pour y réfléchir, ils verraient qu'ils sont les instruments, comme l'était Judas Iscariote, qui exécute exactement ce que Dieu a annoncé. Ils accomplissent cela exactement par leur propre science. Par sa recherche scientifique, ce même moyen par lequel il a trompé Ève, il a aussi trompé l'Église, dont Ève était un type. Bon, maintenant, Adam, qui est à nouveau un type de l'Église, ou Ève plutôt, remarquez ce qu'elle a fait. Dans sa quête de la connaissance, elle a franchi la ligne entre le bien et le mal, en écoutant la perversion ou la déformation que Satan a fait de la parole originale de Dieu. Et maintenant, les églises d'aujourd'hui sont déformées. Là, je ne parle pas des gens, des individus. Je parle du monde des églises. L'une est déformée d'une manière et l'autre d'une autre. Tout ça par la science. Le même moyen qu'il a utilisé. Il a mis sa menace à exécution. Satan l'a fait, selon Ésaïe 14, 12. Lisons cela un instant. Dans le livre d'Ésaïe, commençons au chapitre 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es précipité à terre, toi le vainqueur des nations. » Là, c'est Ésaïe qui le voit dans une vision, voyez, dans l'âge à venir. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, l'extrémité au septentrion. » Le but de Satan, depuis l'Éden, c'était de faire son propre Éden, de s'élever au-dessus de cela, afin que les étoiles de Dieu l'adorent, les fils l'adorent. Et il a totalement atteint son but. Maintenant, et lorsqu'il a fait cela, il a apporté dans l'Église. Je ne vais pas entrer dans les détails de ceci. Tous ceux qui écoutent les bandes connaissent ces choses. Voilà, voilà exactement l'heure à laquelle nous vivons. Et c'est Satan qui l'a fait, par des programmes pédagogiques, une meilleure formation, un meilleur ceci, un meilleur cela. Et tout ce temps, les gens ne savent pas qu'ils se dirigent directement vers la mort. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Des conducteurs des nations aveuglés. Des conducteurs de la science aveuglés. Des conducteurs de l'Église aveugles. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Jésus a dit, « Laissez-les tranquilles, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Remarquez ici les types des deux Édens. Leurs types sont si proches l'un de l'autre que cela arriverait presque à séduire les élus eux-mêmes. Matthieu 24, 24 a dit qu'il en serait ainsi. Mais je veux que nous nous arrêtions quelques instants pour observer attentivement ces deux Édens. Et plus précisément que la Bible nous dit que la parole de Dieu a produit cet Éden. Et que la parole de Dieu nous prévient de l'avènement de l'autre Éden. Maintenant, nous savons aussi qu'il doit y avoir un autre Éden. Si nous écoutons aussi le prophète Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je pourrais le lire si vous le voulez. « Celui qui s'élève ce jour-là du Seigneur ne viendra pas avant que l'homme de péché n'ait été révélé. Celui qui s'assoit dans le temple de Dieu, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de sorte qu'on l'adore comme Dieu. » Pensez-y. Maintenant, dans Ésaïe 14, le prophète dit qu'il a vu Lucifer en son cœur, dans une vision sous l'inspiration de Dieu, où il disait que c'est ce qu'il ferait. C'est dans Ésaïe, 800 ans avant Paul, ou à peu près cela. Maintenant, ici, 800 ans plus tard, Paul le voit qui occupe cette position. Remarquez, c'est l'aboutissement de son Éden. Son Éden scientifique, avec son monde scientifique, avec une église épouse scientifique. Tout cela sous le contrôle de la parole de connaissance, de grands séminaires, de grands diplômes, des programmes pédagogiques. Écoutez, frères, sœurs, chacun de nous empruntera ce chemin qu'a emprunté Florence. Je vous demande, au nom de Jésus, de considérer ceci. Non pas me considérer moi, je suis votre frère. Ce n'est pas ça. Considérez la parole que j'apporte de la Bible de Dieu. Et regardez, c'est parfaitement confirmé dans la parole de Dieu elle-même, où nous en sommes, dans l'âge où nous vivons. En soi, ces programmes sont absolument antichrist. Maintenant, il lui faut un Éden. Il a dit qu'il le ferait. Voici que la simple parole de Dieu dit qu'il le ferait. Et ici, nous promenons le regard là-dehors et nous le voyons le faire. Il l'a fait avec son épouse intellectuelle, scientifique, dénominationnelle. Un de ces jours, il prendra les rênes du Conseil mondial des Églises qui sera mis en place. Tous seront avec lui. Éprouvez les gens, non pas parce qu'ils sont des gens mauvais. Comme le maïs, ils avaient été plantés dans un sillon droit. Mais Satan a semé des plantes grimpantes. La science, la recherche, l'instruction, les doctorats. Un de ces jours, ils ne vous laisseront même pas monter à la chaire tant que vous n'aurez pas présenté un doctorat reçu dans un séminaire quelque part. Tout ça, c'est mauvais. Pas les gens, c'est le programme qui est mauvais. Maintenant, qu'est-ce que cela a produit? Tout cela a de nouveau abouti et a entraîné le monde entier par un tas d'hybridations, de perversions de la semence originelle de Dieu dans un autre chaos ténébreux. Mais je suis si heureux que Dieu se souvienne encore de nous, qu'il puisse toujours agir devant ces conditions. Il a promis qu'il le ferait, qu'il appellerait un petit troupeau qui serait son épouse. Maintenant, remarquez là encore combien ces églises sont des types parfaits ou ces Édens. Dieu, par une semence de sa parole, et il n'y a qu'une seule chose qui puisse vivifier la parole, c'est l'Esprit, car c'est lui qui donne la vie à la parole. Et quand la vie qui est dans la parole rencontre la vie de l'Esprit, elle produit ce qu'est la semence. Maintenant, remarquez ce qui s'est passé. Dans le jardin d'Éden se trouvait l'économie de l'innocence de Dieu. Et ça, c'était l'une des dispensations. La première dispensation, c'était l'innocence. Les gens ne connaissaient pas le péché. Ils ne savaient rien du péché. Adam et Ève étaient tous deux nus, mais leur nudité leur était cachée par un voile spirituel qui recouvrait leur visage. Ils n'avaient jamais su qu'ils étaient nus, pas du tout, parce que cela leur était caché. Grâce au voile de Dieu, dans leur propre pensée, ils ne connaissaient pas ce qu'était le bien et le mal. Le fait qu'ils étaient tous deux là, nus, montrait qu'il ne leur avait pas encore été donné de connaître qu'ils étaient nus. Voyez, les deux étaient nus et ne le savaient pas. Maintenant, prenez, si vous le voulez bien, ou le notez, Apocalypse chapitre 3. Le Saint-Esprit a prédit ce dernier âge, l'âge de l'église pentecôtiste de Laodicée dans les derniers jours. Il leur a dit, « Tu es nu, aveugle, et tu ne le sais pas. » Il y a d'un côté la semence de Dieu qui vit dans l'innocence. Ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient nus. Ils étaient sous le voile du Saint-Esprit, ce qui les voilait du péché. Et maintenant, dans le dernier âge de l'Église, nous voyons ici qu'ils sont de nouveau nus et ils ne le savent pas. Mais là, ce n'est pas le voile du Saint-Esprit, c'est le voile que Satan a mis sur Ève là-bas. Un voile de convoitise, le voile de la convoitise. Elles sont si souillées qu'elles ne savent pas qu'elles sont nues. Nos femmes qui sont dans la rue en short, en robe sexy. Quelqu'un m'a envoyé un article de journal l'autre jour où il était question de cette nouvelle robe qu'elles vont porter, d'une longueur, je pense, de 35 cm à partir des hanches ou quelque chose comme ça. Et je me pose cette question. Notre population féminine se rend-elle compte que c'est un voile de convoitise? Maintenant, vous pourriez dire, je peux prouver devant Dieu que je ne suis pas du tout coupable d'adultère envers mon mari, ou tout ça. Mais au jugement, vous serez quand même appelé adultère. C'est ce que dit la Bible. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Aveugle, nu, et elles ne le savent pas. Ce ne sont pas ces pauvres petites femmes qui sont là, dehors. Je n'ai absolument rien contre elles. C'est contre ce mal. Et le système de l'Église semble ne pas reconnaître cela ou s'y opposer. On les laisse couper les cheveux, se maquiller, porter des shorts et tout, au nom du christianisme. Quelle chose horrible! Vous voyez, elles sont de nouveau nues dans l'Éden de Satan, et elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas. Je crois que si je regarde là, du côté de la piscine, je verrai peut-être une de ces femmes là-bas maintenant. Si seulement cette femme pouvait se rendre compte de ce qu'elle fait, mais elle ne le sait pas. Elle est nue. Son corps est sacré. Elle se dépouille des vêtements dont Dieu l'a revêtue, de la peau pour cette génération-ci. Elle se dépouille toujours un peu plus. Elle est nue au nom de la civilisation, d'une instruction supérieure, d'une meilleure civilisation, d'une éthique supérieure. Laissez-moi m'assurer que ceci pénètre bien. Tout ça, c'est du diable, et ce sera détruit à la venue du Seigneur Jésus. Ce sera totalement détruit. Rien de tout ça ne restera. Et oh, vous les amis qui êtes partout dans le pays, qui m'écoutez alors que je suis ici à Phoenix, réfléchissez à cela. Ici, vous êtes sujets à ces choses. Eh bien, Jésus a dit, cela séduirait les élus si c'était possible. Le premier esprit était un, le premier voile était un voile saint, le Saint-Esprit. Elle n'était pas censée regarder au-delà de cela. Mais quand Satan s'est mis à lui parler de la connaissance, elle a simplement jeté un petit coup d'œil au monde. C'est exactement ce que sa fille, l'Église, a fait. Vous devez voir, vous devez vous habiller comme les vedettes de cinéma, ou les jeunes hommes doivent agir comme Elvis Presley ou Pat Boone, ou ces gens-là, au nom de la religion. Pat Boone est de l'Église de Christ. Elvis Presley est un pentecôtiste. Deux personnages démoniaques qui ont plongé le monde dans un pire chaos que l'a fait Judas Iscariote quand il a trahi Jésus-Christ. Ils ne le savent pas. Ces garçons ne le savent pas. Je n'ai rien contre ces garçons, ces hommes, mais c'est l'esprit qui les motive. Allez de ce côté-là juste un peu, et que cette plante grimpante s'accroche un peu à la tige du maïs une fois, et voyez ce qui va arriver. Pour ce maïs-là, c'est terminé. Oh oui, elle s'en est emparée. C'est ce qui lui arrivera. Cela arrivera à tous les coups. Ève n'avait jeté qu'un seul petit coup d'œil au monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon frère, ma sœur, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, nous pouvons lire cela si vous le souhaitez. La Bible dit, si nous aimons le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas en nous. Maintenant, le mot utilisé ici n'est pas « terre », c'est un mot grec, « cosmos », ce qui signifie « l'ordre du monde ». Si nous aimons les modes de la terre, le monde, si nous aimons la tendance actuelle, si nous pensons que ceci est un temps merveilleux, oh, nous avons toutes ces choses. Si vous pensez ainsi, c'est que votre pensée est mauvaise. Elle est pervertie par le diable. Car si vous aimez l'ordre du monde et les choses de ce monde actuel, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Souvenez-vous de cela. Oh Dieu, regarde ce que nous sommes en train d'examiner. Je veux m'arrêter ici juste un instant pour vous raconter une petite histoire. Je l'ai entendu d'un aumônier de la Première Guerre mondiale. On avait jeté, comme Satan, quand il est venu dans le jardin d'Éden, au commencement. Il ne pouvait pas déterrer les semences. Il ne pouvait pas les détruire. Mais il a répandu du poison là-dessus. Cela a déformé la semence et elle ne s'est pas reproduite selon son espèce originelle. Cela a déformé la semence originelle. Et c'est ce que font tous ces programmes religieux. Ils sont toujours des fils et des filles de Dieu, mais ils sont déformés. Ils vont à l'église parce qu'ils veulent faire ce qui est bien. Une religieuse n'entre jamais dans un couvent pour devenir une femme vile. Un ministre ne va jamais à l'école juste pour devenir un homme mauvais. Jamais on ne devient membre d'une église, on ne donne des poignées de main, on ne met son nom sur le registre ou tout ce qu'on fait dans son église pour devenir une mauvaise personne. On fait cela pour devenir une bonne personne. Mais c'est cette séduction, c'est cette déformation qui fait cela. Satan a répandu cela. Voyez, Dieu n'a jamais eu d'organisation. Ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui est notre organisation. Nous sommes organisés en lui, dans un seul corps, en Dieu, au ciel. C'est vrai, nos noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Remarquez, mais vous voyez, je sais que c'est très difficile, mais je vous prie de me supporter encore un peu, si vous le voulez bien. Au temps de la guerre mondiale, pardonnez-moi de m'éloigner de mon sujet, mais pour bien faire comprendre ceci, je désire vous donner mon analyse de ce que Satan a fait en Éden. Il a vaporisé un horrible poison, l'a répandu. Voulez-vous savoir ce qui a été répandu? Je peux vous le dire. J'en connais la formule. Et c'est deux mots. L'incrédulité, ce qui est contraire à la foi. Il a répandu l'incrédulité, le doute. Et la science a occupé cet espace. Cette cavité qui permettait de pénétrer dans la semence, Satan l'a remplie avec la connaissance, la science et la civilisation. Et cela a déformé toute la création de Dieu en entier. Je sais que vous pensez que je vous mets sur une corde raide, mais je suis sur cette corde avec vous. Et nous sommes tous ici pour essayer de trouver ce que nous pouvons faire. Nous ne disons pas ces choses-là par esprit de contradiction. Nous devons être honnêtes. Chacun de nous, nous arriverons au bout du chemin et nous aurons à rendre compte de chaque mot. En ce moment même, nous savons que nos voix, à notre naissance, notre tout premier petit cri est enregistré sur une bande. Elle sera réécoutée au jour du jugement. Même les vêtements que vous portez vous seront présentés au jour du jugement. Même la science a découvert cela par la télévision. Vous voyez, la télévision ne fabrique pas d'images. Elle la retransmet tout simplement. La couleur de vos vêtements, chaque fois que vous bougez, chaque pensée qui traverse votre esprit, toutes ces choses sont absolument conservées dans le registre de Dieu. Et ces grandes choses-là vous seront présentées. Chacune de ces robes souillées que vous aurez portées, chaque fois que vous êtes allé au salon de coiffure pour couper ces cheveux que Dieu vous a donnés, vous le verrez. Vous aurez à répondre de ça. Vous ne pourrez en aucun cas y échapper. Même les pensées de votre cœur, au moment où vous le faisiez, vous seront présentées. Comment y échapperez-vous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voyez, nous n'y échapperons pas. Chaque mouvement, chaque pensée du cœur, c'est enregistré dans une autre dimension, même la couleur des vêtements que vous portez. La télévision couleur le prouve. Elle capte cela et le montre, voyez? Et ça, c'est juste dans l'une des trois dimensions où nous vivons, voyez? Maintenant, comment ce poison a-t-il frappé l'Église, frappé la terre? Le poison de Satan sur les semences y a creusé des cavités et a causé leur déformation. De plus en plus, il pénètre profondément dans le cœur des églises et dans le cœur des gens. Et tout est devenu la science, la science. C'est à un point tel que la race humaine, par l'hybridation, je crois que chaque semence devrait se reproduire selon son espèce. La race humaine, les plantes et tout le reste ont été hybridés. Et cela nous a amenés là où nous en sommes, du fait de manger la nourriture qui vient de la terre, qui rend nos corps hybrides, Cela fait que toute mon pensée, maintenant, si mon corps décline à partir de 20 ou 25 ans, à cause des cellules dégénérées par des aliments hybrides, les cellules de notre cerveau ne dégénèrent-elles pas? Ne sont-elles pas aussi des cellules? C'est pourquoi Ricky roule à tombeau ouvert dans son bolide, là, dans la rue, tandis que Ricketta, Elvita et bien d'autres, comme nous les appellerions, se promènent devant les gens, là, dehors, à moitié nus. Elles sont mentalement fichues. Elles n'ont plus le moindre sens de la décence ou de la morale. Revenons à ma petite histoire. Cet aumônier a dit qu'il s'était rendu à l'hôpital et il a ajouté que beaucoup de soldats étaient étendus sous la tente. Certains, ils étaient à l'extérieur et ils venaient tout juste d'entrer. Il a dit qu'il était allé là-bas et qu'un officier lui avait dit « Aumônier, nous voulons nous rendre là-bas pour inspecter le terrain. » Ils avaient lancé ce gaz moutarde et ce chlore gazeux, comme on le faisait à l'époque. Il a dit, « Je suis arrivé là-bas, frère Branham, » a-t-il dit. « Il n'y avait pas d'écorce sur un seul arbre. Il n'y avait aucun brin d'herbe. C'était un matin de Pâques. » Il a dit, « Il y avait là quelques vieux chars accidentés que l'officier devait recenser et voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait y faire, près de la grande forêt d'Argonne. » Il a dit, « Quand je me suis retrouvé là tout seul, » a-t-il dit, « j'ai levé les yeux et dit, « Oh Dieu, voici ce qu'il en sera de toute chose. » C'est vrai. C'est ce qu'il en sera de toute chose. Tout était brûlé. Plus de vie nulle part. L'herbe avait été brûlée. Les arbres, tout avait été détruit par ces gaz. Les arbres avaient été détruits. Ils étaient tordus. Ils penchaient d'un côté. Ils avaient été criblés de balles et tout. Si ce n'est pas là une image du monde d'aujourd'hui, où Satan répond son incrédulité, son hybridation, sa science, sa connaissance, au point que ce qu'il en était au commencement, quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin, dans ce beau paradis où il n'y avait pas la mort, ni la maladie, ni le chagrin, où chaque chose était parfaite et à sa place. Regardez ce qu'a fait le DDT de Satan. C'est devenu un chaos. Il n'y reste plus rien. Il a dit, je me suis mis à pleurer. Je suis revenu sur mes pas. Une pierre a attiré mon attention. Il a dit, je suis allé là et j'ai regardé cette pierre. Je l'ai déplacée. Sous cette pierre poussait une petite fleur blanche, la seule chose vivante qui restait, parce que cette pierre lui avait servi d'abri. Ô Dieu, mon rocher, abrite-nous aujourd'hui, ô Dieu, alors que ces poisons se répandent partout, au nom de la science et de l'instruction. Abrite-nous. Garde-moi jusqu'à ce jour, ô Dieu, c'est ma prière. Maintenant, j'espère que nous, que chacun de nous est sous ce rocher, Christ. J'ai prêché l'autre jour. Beaucoup d'entre vous l'ont entendu. Je marchais dans les bois lors d'une partie de chasse et j'ai été poussé à me retourner. J'ai regardé et il y avait sur le sol une cartouche de cigarettes vide ou un paquet de cigarettes vides ou le nom que vous donnez à cela. Et cette compagnie, je ne pense pas que je devrais mentionner leur nom, mais cette compagnie de tabac avait, ils ont un slogan, le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Je me suis mis à avancer un peu plus dans les bois et quelque chose a attiré mon attention. Retourne vers ce paquet de cigarettes. J'ai pensé, Père Céleste, je vais là, à cet arbre où tu avais créé ces écureuils par la parole un matin. Pourquoi me ferais-tu retourner? Quelque chose a dit, tu as un sermon à apporter dimanche. Ton sujet est écrit là-dessus. J'ai pensé, sur un paquet de cigarettes? Je suis revenu sur mes pas. Et je me suis mis à penser, le filtre d'un homme qui réfléchit. Quelle tromperie! Si cet homme était vraiment quelqu'un qui réfléchit, il ne fumerait pas du tout. Mais voyez, les gens gobent cela. Je crois qu'il y a 2 ans, alors que j'étais dans l'une des conventions, je suis allé à une foire internationale qui se tenait sur la côte ouest, et ils avaient là la photo de Yul Brynner et de beaucoup d'autres. Les scientifiques, un bon nombre d'entre eux, étaient dans la même salle, à faire un exposé sur le danger de fumer. Ils expliquaient comment ils avaient fait passer cette fumée sur une plaque de marbre, et qu'à l'aide d'un petit coton-tige, ils en avaient prélevé la nicotine, et l'avaient mise sur le dos d'un rat, et qu'il l'avait mis dans une cage. Au bout de 7 jours, il était tellement recouvert de cancer qu'il ne pouvait même pas marcher. Voyez, il disait, cela avait été prélevé à travers l'eau. Quelqu'un a dit, un filtre. Il a dit, un filtre, ça n'existe pas. Il a dit, vous. Or là, c'est la science elle-même. Ils ont dit, vous ne pouvez pas avoir de fumée sans goudron. C'est le goudron qui produit la fumée. Et la seule chose que c'est une combine pour vendre plus de cigarettes. Quand ça, si, j'espère que vous ne pensez pas que je suis sacrilège ou fanatique. C'est le diable dans l'homme qui le pousse à fumer afin qu'il se tue. Là où il lui faut la nicotine d'une cigarette pour satisfaire son désir. Le fabricant trouve cette astuce séduisante et dit, le filtre d'un homme qui réfléchit. Il lui faut fumer 4 ou 5 cigarettes pour avoir en lui autant de goudron pour le satisfaire qu'il aurait pu en avoir en n'en fumant qu'une seule. Les Américains qui vendent la mort à leurs frères et sœurs. Je ne comprends pas cela. Et pourtant, là-dedans, je me suis dit, il y a un filtre d'un homme qui réfléchit. C'est vrai. Bon, si un homme fume, rappelez-vous que cela produit le goût d'un homme qui fume. Alors, si vous ne pouvez pas avoir une soif, satisfaire la soif de fumer, tant que vous n'obtenez pas la fumée, vous avez, il faut que cela produise le goût. Alors, vous fumez 4 cigarettes ou 5, et vous dépensez plus pour ce faire que si vous aviez eu à fumer juste une cigarette ordinaire. Vous voyez, c'est une combine, une astuce pour vendre. On trompe les gens. Des Américains. Quand je pense à Valley Forge, à George Washington, eux dont les 2/3 des soldats n'avaient pas de chaussures aux pieds par cette journée froide, mais qui combattaient pour faire de nous l'économie que nous sommes. Et les Américains vendent aux Américains, à leurs frères et sœurs, la mort, par de fausses combines, pour un gain sordide, la racine de tous les maux, l'amour et la soif de l'argent. Tout est devenu de la folie et ils ne savent pas que tout cela périra. Mais si vous n'avez pas de fumée, vous ne pouvez pas en avoir le goût. Alors je me suis dit, il existe un filtre pour un homme qui réfléchit. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Et de là, j'ai tiré mon sujet. Le filtre d'un homme qui réfléchit produit le goût d'un homme saint. Alors, je me suis dit que ça ressemble beaucoup à ce que font nos dénominations. Ils admettent les gens qui se font appeler chrétiens, mais vivent n'importe comment. Pourquoi? Ils font entrer plus de gens dans leurs dénominations ou leurs organisations. Nous faisons entrer plus de gens parce que nous les laissons entrer par ceci, cela et autre chose, par n'importe quoi. Ça nous est égal. C'est juste pour que les gens inscrivent leur nom dans le registre et déclarent être chrétiens. C'est tout. Oh, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Vous devez croire. Le diable fait la même chose. Oui, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça vient par le filtre de Dieu. Maintenant, il existe le filtre d'un homme qui réfléchit. Je le tiens dans ma main. Il ne produira pas un goût dénominationnel, mais il satisfera certainement le goût d'un homme saint. Vous savez, comment une femme aux cheveux coupés pourrait-elle jamais passer par ce filtre? Comment une femme en short ou en pantalon pourrait-elle jamais passer par ce filtre? Alors que la Bible dit, c'est une abomination pour Dieu qu'une femme porte un vêtement d'homme. Et comment un homme qui se respecte un tant soit peu peut-il sortir vêtu comme une femme, laisser pousser ses cheveux comme une femme, avoir des franges frisées comme ça qui lui descendent jusqu'aux yeux? Il porte les sous-vêtements de sa femme. Elle porte ses vêtements de dessus à lui. Le filtre d'un homme qui réfléchit, un homme qui réfléchit ne fera pas ça. Une femme qui réfléchit ne fera pas ça. La parole de Dieu ne laissera pas cela passer. Il n'y a qu'une seule chose qui peut passer par cette parole. C'est le Saint-Esprit. Et il met en vous la parole et produit le goût d'un homme saint. Regardez une Riquetta dans la rue aujourd'hui. Ce beau et joli physique que Dieu lui a donné, c'est Satan qui l'utilise. Elle s'habille de façon si immorale, oubliant que dans une semaine, elle pourrait très bien être en train de pourrir dans la tombe. Je descendais la rue, ici, il n'y a pas longtemps. J'avais prêché à une convention des Assemblées de Dieu sur la côte ouest, lors de réunions à l'école biblique Southwestern. Une jeune femme marchait sur la route, avec un petit, vêtu de ses petits vêtements, des bikinis, ou le nom qu'on donne à ça, avec des franges qui pendaient, un chapeau de cow-boy et des bottes. Je remontais la route. Je me suis dit, pauvre petite fille, l'enfant d'une mère et d'un père qui a été placé ici pour être une fille de Dieu et qui est devenue un appât entre les mains du diable. Je me suis dit, je crois que je dois faire demi-tour et revenir sur mes pas pour parler à cet enfant. Elle semblait avoir à peu près l'âge de ma Sarah qui est là, 17 ans, 16 ans ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, non, vaut mieux pas. Je ferais mieux d'aller là-haut sur la route et prier pour elle. Si quelqu'un me voyait m'arrêter pour lui parler, je ferais mieux de ne pas le faire. Maintenant, fils de Dieu, écoutez, vous vous retrouvez dans la même situation. Si Jézabel d'aujourd'hui se dandine devant vous, mais un homme qui réfléchit, réfléchira avant de faire quoi que ce soit. Elle est peut-être vraiment jolie, peut-être je pourrais réussir à la conquérir. Mais cela te coûtera ton âme, mon gars. Certaines d'entre vous, jeunes filles, face à ces riquis, le filtre d'un homme qui réfléchit produit le goût d'un homme saint. Vous, les hommes mariés, quand vous voyez ces femmes dans la rue comme ça, vous, les fils de Dieu, ne vous rendez-vous pas compte de ce qui s'est passé au tout début, au commencement? Quand la science avait rendu les femmes du monde antédiluviennes si jolies que les fils de Dieu avaient pris les filles des hommes, pas les filles de Dieu, et Dieu ne l'a jamais oublié. Ils ont tout détruit. La science, plus jolie. Dans le passé, vous remarquez que les femmes deviennent de plus en plus belles dans ces derniers jours. C'est un signe de la fin. Dieu l'a prouvé. Alors, utilisez le filtre d'un homme qui réfléchit. Vous aurez le goût d'un homme saint. Cela vous coûtera votre foyer. Cela vous coûtera votre position sociale. Cela vous coûtera tout ce que vous avez. Et en plus de cela, votre âme. Cela brisera votre foyer. Il se peut qu'un autre homme élève vos enfants ou qu'une autre femme élève vos enfants. Prenez le filtre d'un homme qui réfléchit. Il produira le goût d'une femme sainte. Quand vous allez au salon de coiffure ou ailleurs et qu'on vous dit, vous aurez des maux de tête, vous savez. Prenez le filtre de la femme qui réfléchit. Ce que la Bible dit, voyez, et détournez-vous de cela, voyez. Ne le faites pas. Je suis votre frère. Je vous aime. Je n'ai rien contre vous, Dieu le sait, et c'est ce qui me fait dire les choses que je dis. C'est à cause de l'amour de Dieu pour vous. Si un homme se tient là et qu'il ne vous le dit pas, si votre pasteur vous laisse vous tenir là et agir ainsi, il ne vous aime pas. Il est impossible qu'il vous aime. Je ne voudrais pas d'un tel amour pour les femmes. Je veux que ma sœur ait un goût saint. Je veux qu'elle soit vraiment ma sœur. Pas que quelqu'un dise, que quelqu'un puisse parler d'elle en termes de beauté et de son apparence, de ce qu'elle serait une petite reine du sexe. Elle va à mon... Non, non, non. Je veux qu'elle soit une dame. Ô Seigneur, garde-moi sous le rocher. Oui. Dans Éphésiens 5, 26, la seule façon de passer par ce rocher, c'est d'être lavé par les eaux de séparation, par la parole. C'est vrai. Maintenant, ne laissez pas le diable répandre sur vous son instruction. Non, non, ça va tuer votre influence. Ne laissez pas le diable vous amener à vous contenter de dire, « Eh bien, je suis membre de l'église dont ma mère était membre, de celle de mon père, de ma grand-mère. » Ne laissez pas le diable répandre cela sur vous. La Bible a déjà dit dans les sept âges de l'église, et ainsi de suite, que tout s'est dégradé. C'est vrai, tout est corrompu. Tout n'est qu'une plaie vive. Ne le laissez pas vous tromper, dire « Eh bien, c'est une éthique supérieure, nous sommes plus instruits que nous l'étions autrefois. » Ne laissez pas le diable vous enduire de cela. Je vous ai montré tout son programme quant à la civilisation, l'instruction et la science. Il a introduit cela dans l'Église. N'écoutez pas cela. Tenez-vous loin de ces émissions souillées à la télévision et tout. Notre sujet, c'est « Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. » N'allez pas dire « J'ai été confirmé dimanche. » Non, allez-y et soyez transformés maintenant même. Transformés de ce que vous êtes en ce que Dieu veut que vous soyez. Bon, cela dépend du genre de semence qui est en vous. Si une semence de l'intellect et de l'instruction a été placée en vous, elle ne peut faire qu'une seule chose, vous déformer, c'est tout. Si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, c'est la seule chose qu'elle puisse faire. Aujourd'hui, quand je regarde dehors, les gens agissent comme s'ils ne croyaient même pas que Dieu existe. Pardonnez-moi cette expression. Si cela a blessé quelqu'un, ce n'est pas mon intention. Il y a quelques dimanches, ma propre fille m'a invité à venir regarder un concert religieux à la télévision. C'est le dimanche matin. Je voulais suivre l'émission d'Oral Roberts. Et je leur ai dit de me faire signe. Elle a dit, « Tu entends ça? Ils chantent vraiment bien. » Mon fils qui était là me l'a dit aussi. Et j'ai allumé ce téléviseur. Nous louons d'une femme qui a une télévision dans sa maison. Je n'ai pas du tout l'intention d'en avoir une chez moi. Non, monsieur, je ne veux pas de cette chose dans ma maison. Je ferai sauter cela avec mon fusil de chasse. Je ne veux rien avoir à faire avec cette vilaine chose. Non, monsieur. Mais on a pris un. Permettez-moi de vous parler de vous qui habitez l'Arizona. Vous avez vu cette enquête menée dans les écoles l'autre jour, n'est-ce pas? 80% des enfants dans les écoles de l'Arizona souffrent de déficience mentale. 67% d'entre eux, c'est parce qu'ils regardent la télévision. Qu'en pensez-vous? Vous feriez mieux d'utiliser votre fusil de chasse. Voyez? Ne laissez pas le diable répandre ça sur vous. Non, monsieur. Maintenant, les gens, comme je l'ai dit, les gens agissent comme s'ils n'auront pas à passer en jugement. Ces garçons et ces filles, il y avait aussi une famille indienne et tout un tas de choses. Je pense qu'un homme du nom de Monsieur Poole en est le conducteur. Et si jamais j'ai vu une parodie moderne des cantiques, c'est bien la manière dont il s'y prenait. Une bande de rikis qui était là, agitait les mains dans tous les sens. J'ai vraiment apprécié ce jeune homme qui a chanté ici ce matin. Il avait l'air décent, comme un vrai homme. J'aime ça. Quand vous, les hommes d'affaires, vous faites parfois venir ici ces bandes de rikis qui crient et qui braillent et qui font n'importe quoi et qui retiennent leur souffle jusqu'à ce que leur visage devienne bleu. Ça, ce n'est pas chanter. C'est juste faire beaucoup de bruit scientifique. Chanter, c'est exprimer une mélodie du fond du cœur. Je me suis dit, dommage, quelle honte. Alors voilà qu'au nom de la religion, on agit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Quelqu'un a dit l'autre jour, un garçon qui fréquente ma fille, un garçon chrétien a dit, il lui a fait un commentaire impertinent au sujet d'Adam et Ève. Il a dit, Ève parcourait le jardin. Il a dit, les enfants, vous voyez cet arbre-là? Il a dit, c'est ce que votre mère a mangé. Et à cause de cela, nous sommes privés de maison et de foyer. Pouvez-vous imaginer cela? Il est censé être un fervent chrétien. Il prendrait une promesse, une parole de Dieu, et les jeterait dans une porcherie. Ils agissent comme s'ils n'avaient pas à passer en jugement. Mais Dieu fera passer chaque secret en jugement. Ils agissent comme si Dieu n'existait pas. Je ne veux pas les traiter d'insensés, parce que la Bible dit que l'insensé, ce n'est pas bien. Jésus a dit que ça ne l'est pas. Ne traitez personne d'insensé. Mais dans Psaume 14.1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voyez, ils ne sont pas, je ne veux pas les traiter d'insensés, mais ils agissent comme s'ils l'étaient. Ils agissent comme tels. Donc, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui? On dit, il n'y a point de Dieu, je suis membre d'Église. Pour eux tous, pour toute la bande, la Bible est une grosse plaisanterie. Notre Église sait où elle va. Oui, directement en enfer. C'est exact. Ils vont tout droit sur leur chemin, sur la voie de la science, de l'instruction, des séminaires de théologie et tout, ce qui les berce tout le long de la route. Le Saint-Esprit n'a aucune possibilité de donner une révélation sur quoi que ce soit. Le séminaire a pris soin d'empêcher cela. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Pas un séminaire, pas des évêques, des surveillants et tout. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur. Cain avait cette personnalité-là. Il était vraiment très religieux. Eh bien, si tout ce qu'il vous faut, c'est d'être religieux, alors Dieu a été injuste de condamner Cain, car il était bien religieux. Il était tout aussi religieux et sincère qu'Abel. Maintenant, souvenez-vous, il pensait à Dieu, il adorait Dieu, il avait une église, il a bâti un autel, il a offert un sacrifice, il a prié, il a adoré, mais il a été rejeté. Peu importe comment, Ésaü l'était aussi. Voyez, la religion, voyez, c'est l'affaire de Satan. Pas qu'il détruit totalement cela, mais il la contamine simplement. C'est tout. Il ne va pas détruire totalement cela. Oh, il ne s'agit pas du communisme. Non, non. L'Antichrist, ce n'est pas le communisme. La Bible dit, cela séduirait les élus si c'était possible. Ne vous préoccupez pas du rideau de fer, mais du rideau de pourpre. Ah oui. Mais remarquez, Cain est venu pour adorer. Mais il avait en lui la mauvaise semence, la semence du serpent. Le sifflement du serpent l'avait enrobé, car il était la semence de la femme. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu, mais il a refusé de la faire. Le saviez-vous? Satan connaît la volonté de Dieu, mais il refuse tout simplement de la faire. Remarquez, il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez, que vous utilisiez votre filtre d'un homme qui réfléchit un instant. Le message juste d'Abel, que Dieu avait confirmé comme étant la vérité. Saisissez-vous maintenant? Oui. Le message d'Abel avait été accepté. Cain a vu cela. Et il savait que Dieu avait confirmé que ce message était juste. Mais il ne pouvait pas le faire. Son orgueil l'en empêchait. C'est vrai, son orgueil l'empêchait de le faire. Il avait vu Dieu confirmer ce message-là. Il semble aujourd'hui qu'il soit très difficile pour les gens de s'humilier devant la parole de Dieu. Ils ne veulent tout simplement pas le faire. Ils peuvent s'humilier devant le credo de l'Église, bien sûr, mais pas devant la parole de Dieu. Si vous voulez voir cela, vous allez dans... J'ai ici des passages de l'Écriture auxquels je fais référence. Genèse 4, 6 et 7. Dieu parle à Cain et dit, « Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu plein de rage à marcher de long large? Tu viens d'entendre un message qui t'a attristé. » Il a dit, « Eh bien, pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que je ne suis pas venu dans ton église? Pourquoi donc es-tu ainsi? Utilises-tu le filtre d'un homme qui réfléchit? Voyez? Ou pourquoi n'as-tu pas? Pourquoi fais-tu cette tête? » Il a dit, « Si tu agis bien, va faire comme ton frère qui est là-bas. Je te recevrai et te bénirai. Je ferai pour toi la même chose. » Mais il ne pouvait pas le faire. Il a dit, « Eh bien, si tu ne le fais pas, le péché de l'incrédulité se couche à la porte. » Donc, quand ils nous disent « les jours des miracles sont passés », alors qu'ils voient cela confirmé et prouvé de manière si parfaite, vous voyez, toutes ces choses que Dieu a promis qu'il ferait dans les derniers jours, Apocalypse 10 et Malachie 4, toutes ces choses qui sont confirmées de manière si parfaite, qu'y a-t-il, mes frères? Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez-vous, s'ils ne veulent pas, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire le péché. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est vrai, vous n'êtes pas condamné parce que vous buvez, fumez, chiquez, portez des shorts et tout ce que vous faites. Non, ce n'est pas ce qui vous condamne, c'est parce que vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous ne feriez pas ça, voyez? Un croyant ne fait pas ça. Il prend le filtre d'un homme qui réfléchit, voyez? Ou le filtre d'une femme qui réfléchit. L'un ou l'autre. Très bien. Mais vous voyez, le péché est couché à la porte. Maintenant, remarquez ce que cela a fait à Caïn. Ça fera la même chose aujourd'hui. Cela a fait que Caïn reparte en tant que pécheur volontaire. Il a volontairement été désobéissant. Il en sera de même pour chaque personne. Il a volontairement désobéi après avoir vu que Dieu a confirmé le message d'Abel comme étant la vérité et il a refusé de faire pareil. Il aurait dû faire la même chose à ce moment-là. Il a donc franchi la ligne de séparation. Il y a une ligne que vous pouvez franchir. Vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant, vous les ministres qui êtes ici, et aussi ceux qui sont reliés par téléphone, partout où on écoute cette émission à travers le pays. Êtes-vous conscient de cela? Quand vous voyez que c'est l'Écriture et que vous refusez de vous exécuter, Dieu ne va pas toujours. Vous irez de l'avant, vous serez bénis. C'est ce qui s'est passé avec tout le peuple d'Israël. Ils ont vécu dans le désert, ils ont eu des enfants, des récoltes, ils ont été bénis et tout. Mais chacun d'eux a été éternellement séparé de Dieu. C'est ce qu'a dit Jésus. Oh oui, Dieu continuera de vous bénir, mais c'en est fini pour vous. Certainement, c'est ce que dit la Bible là. C'est ce qu'il a dit. Remarquez, vous pouvez franchir la ligne de séparation. Croyez-vous cela? Caïn l'a fait. Prenons ce passage-ci juste un instant. J'ai noté Hébreux 10, 26. Voyons si je peux le trouver rapidement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, je crois que c'est le verset 26. J'ai noté cela ici, juste un instant, si vous voulez être patient avec moi. Lisons cela juste un instant. Très bien, nous y sommes. Car si nous péchons volontairement, après reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. C'est ainsi dit la sainte parole de Dieu. Si nous refusons volontairement de croire, après l'avoir vu et l'avoir entendu, nous aurons alors franchi la ligne. Il n'y aura plus jamais de pardon pour cela. Vous aurez franchi la ligne. Oh, dites-vous, Dieu continue de me bénir. Oh oui, souvenez-vous d'Israël. Les frontaliers, Dieu leur avait donné une promesse là-bas, dans la Terre Sainte, un pays qui était bon, où coulait du lait et du miel. Puis quand Moïse a envoyé de l'autre côté Caleb et Josué, et les espions, pour aller espionner le pays, et qu'ils en ont rapporté des preuves, la confirmation, 10 d'entre eux ont dit, nous n'y arriverons pas, nous n'en sommes pas capables. Regardez combien c'est difficile, nous serons des fanatiques, nous irons combattre avec ces minuscules objets. Regardez ce qu'ils ont, nous n'y arriverons pas, nous n'en sommes pas capables. Josué et Caleb ont dit, nous sommes plus que capables de le faire, Dieu a fait la promesse. Et souvenez-vous, ils ont fait demi-tour. C'était à Kadesh Barnéa. Ils ont fait demi-tour et se sont mis à errer dans le désert. Chacun d'eux est mort et éternellement perdu. C'est Jésus qui l'a dit. Ne franchissez pas cette ligne de séparation. Voyez, quand vous savez faire ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Israël a fait la même chose. Après avoir vu Moïse être confirmé, ils ont ensuite laissé Balaam les vaporiser, cette précieuse semence confirmée. Pasteur, ne dites jamais quoi que ce soit contre cette parole. Regardez Balaam, il était prophète, il a vu la semence de Dieu être confirmée, mais sous l'influence de sa propre dénomination, la grande dénomination dans laquelle il vivait. Moab, quand il a vu entrer dans le pays cette bande de gens errants, il les a vaporisés. Il a dit, « Eh bien, attendez un instant, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des croyants. Eh bien, nos pères et vos pères sont les mêmes. Ne sommes-nous pas les enfants de Lot? Lot n'était-il pas le neveu d'Abraham? Ne sommes-nous pas tous un même peuple? Marions-nous les uns les autres? » Et Israël, de même qu'Ève, avait laissé Satan la vaporiser dans le jardin d'Éden. Il a aussi vaporisé Israël par un faux prophète. Alors que le vrai prophète était parmi eux, avec la parole confirmée. Mais par une conception intellectuelle de la connaissance, il les a vaporisés. Pensez-y. Eh bien, Cela n'a jamais été pardonné. Ce péché n'a jamais été pardonné. Ces semences ont pourri là même, sur le sentier du devoir, en chemin vers le pays promis. Chacun d'eux a péri et a pourri là même, à l'Église, dans l'exercice de leurs fonctions, eux qui suivaient Dieu. Ils avaient laissé Satan vaporiser sur eux un produit intellectuel, de l'instruction, une conception intellectuelle, quand il leur a dit, « Eh bien, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous ne l'êtes pas !» Mais il a laissé ce faux enseignant, là, répandre sur eux cette conception intellectuelle qu'il avait de cela. Et c'est exactement ce que le Conseil œcuménique fait en ce moment, voyez-vous. C'est la même chose. Eh bien, regroupons-nous tous ensemble dans une grande organisation. Tout votre système des organisations vient du diable. C'est la marque de la bête dont il est question dans la Bible. Je publierai un livre là-dessus très bientôt, si le Seigneur le veut. Remarquez, au temps de Noé, on a vu la parole érigée pour flotter. Permettez-moi de faire une petite remarque ici. La parole avait été assemblée pour être transformée, pour être transportés de la terre aux cieux. Ils ont vu la structure prendre forme. Mais à cause de leur conception intellectuelle, ils se sont moqués ouvertement du prophète, de Noé, quand il prophétisait au sujet du temps de la fin. Mais ce qui a fait, cette structure était faite de la parole de Dieu, enduite à l'intérieur et à l'extérieur, de prière et de foi. Quand les pluies sont venues, toutes les conceptions intellectuelles des religions sont mortes et ont pourri directement, là même, dans leurs églises, sur la terre. Et l'arche a flotté au-dessus de tout cela. La semence scientifique qui avait été répandue a pourri directement lors du jugement. De toute façon, que cherchons-nous à faire? Cherchons-nous à établir notre Église ou cherchons-nous à établir la parole de Dieu? Que cherchons-nous à faire? À quoi travaillons-nous? Est-ce que nous cherchons à ramener les gens à ceci? Qu'est-ce que cette grande Ève essaie de faire ici, dans ces derniers jours? Cette Église, Ève. Il faut que je m'arrête tout de suite, frère, parce qu'il se fait trop tard. Donnez-moi juste une quinzaine de minutes de plus, et je vais terminer les passages de l'Écriture que j'ai notés ici. Certainement, allez-y. Oui, très bien, je sais. Eh bien, il se peut que ces gens veuillent entrer pour nettoyer ici, mais il me semble que c'est difficile d'arrêter. Allez-y, continuez. Eh bien, il n'y a pas d'urgence. Je vais me dépêcher. Très bien. Regardez la grande Ève d'aujourd'hui qui est scientifique, instruite, hybride et qu'on appelle l'Église. Que cherche-t-elle à faire? Cherche-t-elle à exalter la parole de Dieu tout en permettant aux gens de faire tout ce qu'ils font? Ils n'utilisent pas le filtre d'un homme qui réfléchit, c'est-à-dire le filtre de Dieu. Regardez ce qu'ils produisent. Ils s'exaltent eux-mêmes. L'Église, dont la semence a été déformée par le programme de la connaissance, a entraîné toute la race dans l'ignorance de la parole de Dieu, par la science. Maintenant, je vais survoler ces points. Je ne vais pas trop traîner là-dessus maintenant pour pouvoir terminer. Des ignorants à cause de la science. Quand ici même, sur la terre, Dieu fait les choses qu'il fait par sa parole promise, ils tournent le dos à cela. Ils s'en vont parce qu'ils sont des ignorants à cause de la science. Des ignorants à cause de la science. Je souriais tout à l'heure parce que Frère Williams, qui est là, a écrit ici sur un morceau de papier, « Vous pouvez prendre tout l'après-midi » ou quelque chose comme ça. Bon, j'apprécie cela. C'est très bien, voyez. Mais les gens pêchent volontairement. Aujourd'hui, cela a amené tout le système des églises du monde à pécher volontairement contre Dieu. Eh bien, la simple décence vous prouvera que c'est vrai. Très bien. Un voile de convoitise sur ses yeux l'aveugle. Elle ne voit pas la parole de Dieu et elle se retrouve de nouveau nue. Vous savez, Dieu, dans Apocalypse 3, a dit, « Viens et achète de moi du collyre, afin que tes yeux s'ouvrent. » Voyez, le collyre, c'est sa parole. Vous savez, ils disent, « Eh bien, cet homme a étudié pendant 40 ans pour obtenir ses diplômes. Il est docteur en ceci, docteur en théologie et tout. » Vous savez ce que Jésus a dit à ce sujet? Il a dit que l'homme renonce à lui-même. Paul l'a fait. Vous dites, ce n'est pas ce que cela signifie. Eh bien, pourquoi Paul l'a-t-il fait, alors? Il a dit, je ne suis jamais allé chez vous avec des discours persuasifs de la sagesse des hommes, parce que vous fonderiez votre espérance là-dessus. Mais je suis allé chez vous avec la puissance et une démonstration du Saint-Esprit, afin que votre parole soit, votre foi soit fondée sur la parole de Dieu, et non sur les manifestations d'une sagesse. Il semble que les gens ont perdu la simple décence et tout sentiment de pudeur. Ils ne sont plus comme ils étaient. À l'époque, quand le prophète disait « Ainsi dit le Seigneur », les gens tremblaient. Oui, certainement. Les gens réagissaient car ils avaient peur. Mais ils ont maintenant perdu toute crainte à cet égard. Ils ne craignent pas Dieu. Salomon a dit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'en est que le commencement. » Mais le prophète a beau prononcer un « Ainsi dit le Seigneur », les gens disent « Ridicule ». Voyez, il n'y a pas d'espoir pour eux. C'est qu'ils disent « Eh bien, nous sommes futés, nous sommes des intellectuels, nous n'avons pas accepté ce genre de choses. Nous savons de quoi nous parlons. » Il y a aussi un vieux proverbe qui dit « Les insensés marchent avec des souliers cloutés, là où les anges craignent de poser les pieds. » Certainement. Alors, quelle est cette transformation? Faisons vite. Comment l'obtenons-nous? Qu'est-ce qui opère cette transformation? C'est Dieu qui l'opère par l'esprit de sa parole. Il transforme. Il plante sa semence. Il répand sur elle son esprit. Et c'est lui qui fait apparaître le produit. Son Saint-Esprit transforme la parole semence qui doit se confirmer selon son espèce. L'espèce de semence que vous êtes va le montrer. Montrez exactement ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas le cacher. Ce que vous êtes à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Impossible d'empêcher ça. Impossible de faire de cet arbre autre chose que ce qu'il est. Voyez, c'est ce qu'il sera. Le Saint-Esprit transforme les semences qui sont à l'intérieur. Quelle qu'en soit l'espèce, il transformera cette semence. Si elle est mauvaise, elle produira le mal. Si c'est une semence d'hypocrite, elle produira un hypocrite. Si c'est une véritable parole de Dieu, elle produira un véritable fils ou une véritable fille de Dieu à travers le filtre d'un homme qui réfléchit. Lorsque la semence se lève, elle passe à travers cela. C'est ce qui produit un fils et une fille de Dieu. Un jour, alors que le monde était dans les ténèbres du chaos, Dieu, maintenant écoutez bien, parce que nous ne parlerons pas juste encore un peu. Regardez, un jour, alors que le monde était de nouveau dans toutes sortes de religions, le lavage des mains, des cruches, le port des robes, de différents bonnets et tout, il était dans le chaos le plus total. Le véritable Israël de Dieu avait été si perverti quant aux lois et aux ordonnances de Dieu que Jésus a dit, « Vous, à cause de vos traditions, vous annulez la parole de Dieu pour le peuple par vos traditions. » Et regardez ces saints prêtres, comme on les appelle. Jésus a dit, « Vous êtes de votre père le diable, et vous faites ses œuvres. » Vous voyez, c'est exactement ce qu'il a dit. Eh bien, alors que le monde était dans cette situation, l'Esprit de Dieu a de nouveau agi sur la semence qui était prédestinée. Il a transféré et transformé sa promesse d'Ésaïe 9, 6. Lui, Dieu, a été fait chair humaine pour sauver ce temps de chaos. Puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu, voici que Dieu vient, comme le prophète l'a vu d'avance. Maintenant, souvenez-vous de la parole. Ce prophète l'a vu d'avance. Exactement le même prophète qui a vu Satan dans ses derniers jours. Voyez, ses programmes d'instruction et ses choses qu'il possède, son programme religieux. Le même prophète, Ésaïe 9, 6, déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son règne n'aura pas de fin. Cette parole-là, c'est la parole de Dieu. L'Esprit a agi sur cette parole et elle a pris forme dans le sein d'une vierge. Amen. Un fils est né, pas créé, né. Satan a cherché par tous les moyens à la vaporiser. Il l'a amené sur un lieu élevé et a dit, « Si tu es ce que tu prétends être, alors opère-moi une guérison ici. Montre-moi comment tu peux le faire. Change ce pain, ces pierres en pain. Jette-toi en bas pour voir. parce que l'Écriture dit que tu le feras. Ne voyez-vous pas ces démons religieux d'aujourd'hui qui disent encore la même chose? Si la guérison divine existe, voici frère un tel, guéris-le pour voir. Ce même démon s'est tenu près de Jésus à la croix. Il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » La parole a dit qu'il était le Fils de Dieu. L'Esprit a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Ésaïe 9, 6 s'est accompli. Et l'autre soir, beaucoup d'entre vous qui nous écoutiez par diffusion nous ont entendu citer près d'une soixantaine de passages des Écritures, je crois, pour prouver que l'Écriture dit que c'était lui. Oh, Satan a tout essayé. Il a tout fait. Un soir, il était étendu à la poupe d'une barque. Il l'avait endormi et il a dit, « Je vais le faire périr tout de suite. » Mais il n'a pas pu. Il a essayé de le tenter pour l'amener à faire le mal, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Il avait été vaporisé de l'imperméabilité de la prédestination. Il ne peut pas être séduit. Non, non. La parole a dit qu'il serait ici. Amen. Aucun démon ne peut lui nuire. Et aucun autre fils de Dieu n'est prédestiné à prendre sa place. Il est vaporisé d'un produit imperméable. Le poison de Satan, les docteurs dénominationnels ne l'effleurent même pas, pas du tout. Il continue d'aller de l'avant. Rien ne peut lui nuire. Voyez, cela n'a eu aucun effet sur lui. Eh bien, je ferai de toi l'évêque de toute la terre. C'est moi qui y règne. Si tu m'adores et rejoins mon groupe, je t'établirai comme chef. Je me retirerai. Je te laisserai la place. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras Dieu, la parole, et tu le serviras lui seul. Puis, un jour, j'aimerais m'arrêter un moment sur ce grand personnage. Mais un jour, l'Esprit a de nouveau agi sur lui. En effet, il y avait une parole venant de Dieu que le prophète avait écrite à son sujet. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. L'Esprit est venu sur lui, l'a conduit et l'a envoyé à la croix du calvaire. Il y est mort. Et tout ce qui avait été annoncé au sujet de sa mort a été accompli afin d'apporter la lumière et la vie à toute la semence prédestinée de Dieu qui était sur la terre. Il a pourvu d'un moyen pour le faire. Voici la semence. L'Esprit apporte la vie. Il transforme les fils et les filles de Dieu du chaos ténébreux de ce monde en fils et filles de Dieu. Ne soyez pas achoppés par le mot « prédestination ». Je sais que vous l'êtes, mais écoutez, ce mot n'est pas de moi. C'est un mot de la parole de Dieu. Si vous voulez lire cela, prenez Éphésiens 1, 5, où il est écrit « Il nous a prédestinés à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ ». Voyez, laissez-moi décortiquer un peu cela juste un instant, pour régler cela dans votre esprit. Regardez, tout comme vous étiez dans votre Père au commencement, un germe, une semence. Le saviez-vous, chacun de vous? Vous étiez aussi dans votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Le saviez-vous? Lisez l'Épître aux Hébreux, où nous voyons que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, quatre générations avant lui. Quand Abraham avait payé la dîme à Melchisédek, cela avait été imputé à son arrière-arrière-petit-fils après lui, alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Voilà. Voyez, vous étiez dans les reins de votre Père, mais votre Père ne pouvait pas avoir de communion avec vous avant que vous soyez transformé en un corps de chair. Mon fils qui est là, il était en moi. Je voulais un fils, mais il était en moi à ce moment-là. Voyez, il était en moi à ce moment-là. Mais par les liens du mariage, il était transformé en un homme comme moi, et il est alors devenu comme moi. Et vous devenez comme vos parents, voyez, parce que c'était en vous au départ. Maintenant, si nous sommes les fils de Dieu, ses attributs, en effet, vous êtes un attribut de votre Père, pas de votre mère, votre Père. Le germe se trouve dans le Père, voyez. Et maintenant, votre mère était une incubatrice qui vous a porté, qui a porté la semence de votre Père, voyez. Et la terre, dans la chair, est aussi une incubatrice qui porte la semence de Dieu. Voyez, c'est tout à fait exact. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas combien le monde est grand, c'est la grandeur du Dieu qui l'a fait. Voyez, voyez. Maintenant, si vous êtes un fils et une fille de Dieu, alors vous étiez en Dieu au commencement. Vous êtes son attribut. Si vous n'y étiez pas, alors vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. En effet, je ne peux pas porter dans mes reins le fils de cet homme-ci ou de cet homme-là. Je ne peux porter que mes propres fils et ils seront à ma ressemblance. Alléluia! Vous voyez cela? Les fils et les filles étaient en Dieu au commencement. Maintenant, regardez, vous avez la vie éternelle, dites-vous. Nous croyons cela, que nous avons la vie éternelle. Eh bien, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est Dieu. La seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. Si donc, vous avez la vie éternelle, cette vie qui est en vous l'a toujours été, et vous étiez dans les reins de Dieu, avant même que le monde existe. Et quand la parole elle-même, Jésus lui-même est appelé la parole, dans Jean 1, il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. » Et elle a habité parmi nous. Vous étiez donc dans les reins de Jésus et vous êtes allé au calvaire avec lui. Vous êtes mort avec lui et vous êtes ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans les lieux célestes en lui, remplis de son esprit, des fils et des filles de Dieu, morts avec lui, ressuscités avec lui. Certainement. Alors maintenant, vous pouvez communier avec lui. Avant, vous ne pouviez pas. Parce que vous n'étiez qu'une parole en lui, une semence. Mais maintenant, il vous a manifesté, et maintenant, il veut que vous communiez avec lui. Alors, il est descendu, a été fait chair, pour pouvoir parfaitement communier avec vous. Vous voyez la communion parfaite? Oh là là, ces profonds mystères de Dieu, que c'est merveilleux. Voyez, Dieu ne pouvait pas communier en esprit, alors Dieu s'est fait homme parmi nous. Jésus-Christ était Dieu lui-même manifesté, car il était un fils, parce qu'il avait été engendré, mais ce n'était qu'un tabernacle où il devait vivre. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, venu du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu s'est bâti une maison, un corps, pour venir y vivre. Il est descendu afin que vous puissiez le toucher. 1 Timothée 3:16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru, élevé au ciel. Voyez, maintenant, il, comme vous êtes chair et qu'il est chair, il vous est alors possible de communier ensemble, parce qu'il était l'attribut de l'amour de Dieu. Dieu est amour, est-ce vrai? Et Jésus était l'attribut de l'amour de Dieu. Et quand l'attribut de l'amour a été manifesté, c'est-à-dire Dieu lui-même, tous les attributs qui se rattachaient à lui sont venus à lui. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Bien sûr, il faut qu'ils aient été prédestinés, sinon vous n'y serez pas. C'est tout, certainement. Maintenant, nous pouvons communier ensemble, par là, la richesse de sa parole, dont vous faites partie. Vous faites partie de la parole. En effet, il était la parole au commencement et vous êtes la parole maintenant. Voyez, je prêcherai ce soir ou dimanche ou l'un de ces jours que je reviendrai sur ce qu'est la parole, voyez. Et maintenant, vous faites partie de la parole. Écoutez, il y a une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas me vanter de mes ancêtres. Non, je viens d'un gâchis terrible. Mon père était un Irlandais. Ma mère était une squaw. Une Indienne, une mi-Indienne. Sa mère était une Indienne qui touchait une pension. Eh bien, c'étaient tous des ivrognes. La plupart d'entre eux sont morts debout, en train de se battre. Des tireurs et tout. Je ne peux pas me vanter de quoi que ce soit à ce sujet, parce que du côté de mes ancêtres et de mon arbre généalogique, c'est terrible. Mais, mon frère, il y a une chose dont je peux me vanter. Je peux me vanter de mon Seigneur Jésus, qui m'a racheté par sa puissance transformatrice. Il a planté une semence par prédestination. Et j'ai vu cela. De qui suis-je le fils maintenant? Oui, je peux me vanter de lui. J'ai passé 33 ans de ma vie à me vanter de lui. S'il m'accorde 33 ans de plus, j'essaierai de me vanter davantage de lui. Voyez, je peux me vanter de mon ancêtre. Alléluia. Lui qui m'a racheté, qui a planté la semence de vie ici, qui m'a permis de poser le regard sur cette parole, qui a envoyé son esprit et a dit, « Le voici, dis ceci et cela arrivera. Fais cela. » Et, oh là là, je peux me vanter de lui. Comment a-t-il fait cela? Par le lavage d'eau, par la parole, les eaux de séparation. Nous aurions aimé expliquer cela. Les vrais croyants prédestinés s'en tiendront à la parole, parce qu'ils sont une partie de cette parole. Oh, astre errant, combien de temps allez-vous errer? Vous, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les étrangers, peu importe ce que vous êtes, astre errant d'église en église, de droite à gauche, de télévision en télévision, de monde en monde. Pourquoi ne venez-vous pas? Il désire ardemment communier avec vous. Il désire ardemment être avec vous. Il veut vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, non pas pour faire partie de l'Église ou de la dénomination, mais de sa parole, dont vous faites partie si ce désir est en vous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voyez? Ah oui. Et il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous affranchir de cette religion déformée dont vous faites partie. Dans ce chaos de difformité où nous sommes, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice, sa parole confirmée, prouvée, pour vous affranchir de cette déformation religieuse, de l'ignorance dans laquelle vous marchez, nu, aveugle, misérable, et vous ne le savez pas. Pensez-y, mes amis. Vous savez, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice pour accomplir sa parole. Il a changé tout le corps de Sarah et d'Abraham. Il a transformé un vieil homme et une vieille femme parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Et ce que Dieu promet de faire, il le fera. Il n'y a rien, chaque chose. Dieu ne peut rien faire d'une chose qui soit pervertie. Mais il tiendra sa parole. Et il enverra son esprit. Moi, le Seigneur, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne l'arrache de mes mains. C'est ce que dit la Bible. Oh, astre errant, vous qui avez un désir dans votre cœur, vous devez l'avoir. Sinon, vous ne seriez pas assis ici ce matin. Et vous ne seriez pas dans ces églises, dans ces salles et tout, partout où vous êtes dans le pays. Si quelque chose ne vous y avait pas amené, quelqu'un vous a parlé, n'allez pas plus loin. Il y a un lavage d'eau par la parole qui vous rendra blanc comme neige. Oh, fils de Dieu, écoutez, ne restez pas dans cette difformité. Sortez-en. Abraham a cru à Dieu et a considéré tout ce qui était contraire. Vous dites, comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment ferais-je ceci? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comment ferais-je? Mes collaborateurs me rejetteraient. Dieu a dit, celui qui quittera son propre père, sa mère, sa femme, son mari, ses foyers, ses maisons, je lui donnerai des foyers et des maisons, je lui donnerai des pères et des mères, des frères et des sœurs dans ce monde, et la vie éternelle dans le monde à venir. C'est une promesse, mon ami. Ça, oh, ça doit être arrosé. Chaque promesse que Dieu fait s'accomplit. Chaque semence de Dieu est une promesse. Et sœurs, arrêtez de vous couper les cheveux, parce que ce n'est pas convenable devant Dieu. Arrêtez de porter ces vêtements. C'est une abomination à ses yeux. Vous, frères, vous les hommes, arrêtez de vous conformer à ces dénominations en faisant ces choses et de permettre à vos femmes de faire de telles choses. C'est inconvenant pour des chrétiens. Revenez à la parole. Prenez la parole. Elle croîtra. Elle doit croître. C'est la puissance transformatrice de Dieu qui a fait naître cela au départ. Il est sur le chemin du retour pour ramener cela de nouveau. Il retourne de nouveau exactement là où c'était. Enoch a été enlevé sans goûter la mort par la puissance transformatrice de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour que ce soit un type de l'Église qui sera enlevé. Oui, c'était pareil pour Élie. Le corps de Jésus a été vivifié après sa mort. Dans la tombe, le corps de Jésus a été vivifié par la parole de Dieu. Il a été transformé d'une image morte et froide en un Fils de Dieu ressuscité et glorifié. En effet, le prophète, psaume 16, 10, si vous voulez le noter, 16, 10, a dit, « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » Oh Dieu, cette parole doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Plantez-la dans votre cœur. Si vous voulez aller dans l'enlèvement, si vous voulez être de véritables chrétiens, placez cette parole. Comme Ézéchiel, je crois, c'est à lui que Dieu a dit, « Prends ce rouleau et mange-le, pour que le prophète et la parole deviennent un. » Et chaque promesse qui s'y trouve doit se manifester, parce que c'est la semence originelle de Dieu. Ne laissez pas un de ces théologiens instruits essayer de vous enlever cela. Ne le laissez pas répandre sur vous sa science, sa connaissance et son instruction charnelle. Croyez Dieu. Abraham n'avait pas accepté les recherches scientifiques de son époque en disant « Je suis trop vieux pour avoir un bébé. Je suis allé trop loin. J'ai fait ceci, cela ou autre chose. » Mais il considérait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme si ça n'existait pas. Il ne doutait pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il savait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. « Oh, fils errant, déformé par les plantes grimpantes de cette terre, sœurs errantes qui ont été attirées par les lieux et les modes de ce monde. » Et, chères sœurs, vous pourriez me considérer comme un vieux grincheux, mais un de ces jours, quand vous ferez face à ce que Florence Chakarian a fait face l'autre soir, elle a aussi été assise dans cette pièce, à cet endroit, comme vous le savez. Quand vous y ferez face, vous verrez que, non pas moi, mais que cette parole est vraie. Tenez-vous loin de ces salons de coiffure, de ces boutiques de mode. Tenez-vous loin de ces choses. Ils disent, pourquoi ne leur enseignez-vous pas de grandes choses? Comment être ceci? Commencez d'abord par votre alphabet, puis on arrivera à l'algèbre. Voyez, commencez par apprendre ce qui est de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous offrez simplement de votre part un culte raisonnable. Dieu s'occupera du reste. Voyez, de raisonner simplement au sujet des choses que vous pouvez faire par votre propre raisonnement. N'est-ce pas déraisonnable pour une femme de se déshabiller et de se conduire là, dehors, comme elle le fait, alors que la Bible condamne cela? N'est-il pas déraisonnable pour un homme de s'enfermer dans des dogmes qui prévalent aujourd'hui et toutes ces choses-là, tous ces séminaires et les choses de ce genre, alors que c'est absolument contraire à la parole de Dieu? Voyez, les lèvres d'Ésaïe, lui, il n'était qu'un homme ordinaire, aux lèvres impures. Il a dit, « Seigneur, je vis au milieu des gens impurs et j'ai des lèvres impures. Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. » Et un ange est descendu, a pris le feu sacré de l'autel de Dieu, et a transformé ses lèvres, les lèvres d'un homme errant, aux lèvres d'un prophète qui avait l'ainsi dit le Seigneur, la puissance transformatrice de Dieu. 120 pêcheurs et de vieilles vendeuses de pourpre, des femmes et tous ceux qui étaient rassemblés dans une chambre haute et avaient fermé les portes, dont certains n'avaient pas assez d'instructions pour savoir comment signer leur nom. Dieu les a transformés de pêcheurs en pêcheurs d'hommes et de femmes de la rue en saints immortels de Dieu. La puissance transformatrice de Dieu. Paul, un membre d'une église locale, presbytérienne, méthodiste, baptiste, pentecôtiste, ou quelque chose de ce genre. Voilà qu'il descendait la rue, mu par ce grand esprit de défi qu'il avait, qu'il en savait plus que tous ces gens-là. Il avait été instruit par Gamaliel, l'un des meilleurs enseignants du pays. Que s'est-il passé pendant qu'il était en route vers Damas, où il se rendait pour arrêter un groupe de personnes qui croyaient la parole de Dieu? Alors qu'il était en route, il a été projeté à terre et il a entendu un message. Cela l'a transformé. Il est passé d'un membre d'église, de quelqu'un qui se contentait de fréquenter l'église, à un prophète de Dieu, qui a mis par écrit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, d'un membre d'église à un saint. « Oh, astre errant, arrêtons-nous. Fils errant, semence errante qui va d'un endroit à l'autre, dans cette difformité. Revenez ce matin, les enfants. S'il vous plaît, écoutez-moi comme un homme qui essaie de se tenir entre les vivants et les morts. Partout dans le pays où vous nous écoutez, si vous nous êtes encore reliés par téléphone, vous qui êtes errants, veuillez encore patienter un instant. Je sais qu'il se fait tard, ici à Tucson, ou, pardonnez-moi, à Phoenix, il est midi moins 20. J'ai gardé ces gens-ci toute la matinée. Je vous ai empêché d'aller à votre travail et tout. Mais regardez, mon cher ami, il se peut que vous soyez éloigné de Dieu pour toujours. S'il vous plaît, revenez ce matin. Le voulez-vous? Il y a de la place à la fontaine. dans une crèche il y a longtemps, et je sais que c'est vrai, un enfant naquit, sauveur du pécheur. Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges. Ô Christ, le crucifié du calvaire. Ô que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Le publicain vint prier au temple ce jour-là. Il cria, « Oh Seigneur, aie pitié de moi !» Ses péchés furent pardonnés. Une douce paix le remplit. Il dit, « Venez voir cet homme de Galilée !» C'est vrai. Le boiteux pouvait marcher et le muet parler. Sur la mer, cela fut prononcé avec amour. Et l'aveugle pouvait voir. Je sais, c'est évident. C'est la puissance de cet homme de Galilée. Comparez cela avec le ministère d'aujourd'hui. À la femme au puits, il dit tous ses péchés. Lui dit qu'elle avait alors 5 maris. Ses péchés furent pardonnés. Une douce paix la remplit. Elle dit, « Venez voir cet homme de Galilée. Femme, il peut faire la même chose. Il a lu votre cœur ce matin. Homme, il a lu votre cœur. Ô publicain, prions. » Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Ne voulez-vous pas l'aimer avec moi ce matin? Oh, pécheur errant et rebelle, ici ou où que vous soyez, voulez-vous accepter mon Seigneur ce matin? Il est la parole, et la parole vous a été apportée. Ne l'accepterez-vous pas ce matin? Voulez-vous simplement lever la main, ou vous lever, ou quelque chose, et prier, dire, « Je veux l'accepter maintenant. Frère, je veux le faire. Je veux l'accepter tout de suite. » Voulez-vous vous lever? Quiconque veut qu'on prie, et dites, « Je suis, qu'on prie pour lui plutôt, je suis un pécheur. Je veux que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre, que tout le monde prie maintenant, juste un instant. » Oh, dans cette crèche, il y a longtemps, c'était dans le chaos, vous savez, le monde l'était. Et je sais que c'est vrai. Un petit enfant naquit, sauveur du pécheur. Quand Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges, il est le même aujourd'hui. Oh, c'est Christ, le crucifié du calvaire. Ne voulez-vous pas l'aimer aujourd'hui de tout votre cœur, afin de quitter cette condition mondaine dans laquelle vous vous trouvez? Vous les femmes, vous les hommes, oh, pourquoi êtes-vous restés assis ici tout ce temps? Cela montre qu'il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose qui a faim et soif. Vous ne seriez pas restés assis ici ces 2 ou 3 heures, assis ainsi dans ce bâtiment. Il y a quelque chose. Ne voulez-vous pas considérer cela aujourd'hui? Laissez les modes, la science et toutes les choses du monde disparaître de votre esprit dès maintenant. Chers frères ou chères sœurs, les églises s'unissent, les grandes nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes ont prédits, les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. Bon, ça c'est vrai. Vous le savez, nous tous, le jour où nous vivons. Mais il a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est le jour où nous vivons en ce moment. La lumière brillera vers le soir, au moment où l'obscurité s'installe, le temps du crépuscule, l'étoile du soir, crépuscule et étoile du soir. Et après cela, l'obscurité. Et puisse-t-il ne pas y avoir de tristesse dans l'adieu quand j'embarquerai? Car même si, au-delà des frontières du temps et de l'espace, le flot m'emporte bien loin, j'espère voir mon pilote face à face, quand j'aurai franchi la barre. Ne me dites pas, en rythme mélancolique, que la vie n'est qu'un rêve creux, et que l'âme qui sommeille est morte, et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oui, la vie est réelle, et la vie est sérieuse, et la tombe n'est pas sa fin, car poussière tu es, à la poussière tu retournes, n'a pas été prononcée pour l'âme. La vie des grands hommes rappelle à chacun que nous pouvons rendre nos vies sublimes, et une fois partis, laisser derrière nous des empreintes sur le sable du temps. Des empreintes de pas que peut-être un autre, naviguant sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter, pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer. Soyons un héros dans la lutte. Dieu bien-aimé, ils sont à toi. J'ai vu deux hommes se lever, Père. Je te prie, ô Dieu, de les recevoir maintenant. Ils désirent être tes fils. Ils ont pris conscience de leur ignorance, de la vie qu'ils mènent. Ils désirent maintenant être rafraîchis, renouvelés par le baptême du Saint-Esprit sur cette semence qui était plantée dans leur cœur aujourd'hui. Éternel Dieu, Créateur de toutes choses, auteur de la parole, je crois que tu savais que ces hommes feraient ceci ce matin. Je te prie, Seigneur, d'arroser cette parole jour et nuit et de ne jamais permettre à Satan de l'arracher de tes mains. Que ce soit un arbre qui, un jour, dans le paradis de Dieu, quand toute chose sera ramenée, car ta parole ne peut pas faillir, sera de nouveau là. Car ce monde, et il n'y aura pas ce genre de civilisation dans le monde à venir. Il n'y aura pas d'automobile, ni rien de ce que la science a jamais produit. Il n'y aura pas de telle chose dans le monde à venir. Mais ce sera le type de civilisation que Dieu lui-même établira dans son glorieux règne. Car dans cette civilisation-ci, il y a la maladie, la mort, le chagrin, des tombes, des besoins. Mais dans ce royaume à venir, il n'y a ni mort, ni chagrin, ni maladie, ni vieillesse. Ô Dieu, tout sera nouveau là-bas, dans ta civilisation. Ô Dieu, transforme-nous aujourd'hui par ta puissance, par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous nous détournions maintenant des misérables éléments du siècle présent pour nous tourner vers la parole de Dieu. Et puissions-nous être renouvelés par l'action de la puissance transformatrice de Dieu sur la semence qui est dans notre cœur. Nous qui croyons cela, et que nous devenions des créatures appelées des fils et des filles de Dieu. C'est ma prière que je t'adresse, Père, pour ces gens, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à vous qui écoutez cette diffusion, où que vous soyez, je veux que vous, là-bas, receviez Christ comme votre sauveur personnel et que vous soyez remplis de son esprit. Ces paroles qui ont été prononcées ce matin, puissent-elles descendre dans votre cœur et que là, vous receviez Jésus. Puis, observez votre vie et voyez quelle vie vous mènerez par la suite. Prenez ce filtre d'un homme qui réfléchit. Quand vous remarquerez que vous faites quelque chose de contraire à cette parole, éloignez-vous-en immédiatement. Voyez, parce qu'il y a un filtre qui tient la mort éloignée de vous. C'est la parole de Dieu. Ces paroles sont vie. Elles tiendront la mort éloignée de vous. Vous qui êtes ici dans la salle en ce moment, je vous ai gardé ici pendant longtemps. Je vous remercie de votre présence. Je prie que Dieu ne laisse jamais mourir cette semence. J'espère que vous ne pensez pas que je me tiens ici et que je dis ces choses par esprit de contradiction. Je le dis par amour. Et je sais que c'est pendant que je suis mortel, comme je le suis maintenant, c'est le seul moment où jamais je pourrai prêcher aux gens. J'aime Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Rappelez-vous, sans lui, je serais dans la rue. Je serais là-bas. Toute ma parenté, tous les miens étaient des pécheurs. Mais je sais que Dieu, par sa puissance transformatrice, a fait de moi une créature différente. Et je peux vous recommander cela, car c'est bon. Ça tiendra bon aux heures difficiles, même à l'article de la mort. Vous n'aurez rien à craindre. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous et vous donne la vie éternelle. Combien ici n'ont pas la semence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit? Voulez-vous juste lever la main pour dire « Souvenez-vous de moi, frère Branham, afin que je reçoive ce Saint-Esprit ». Maintenant, prenez la parole dans votre cœur et croyez cela. Maintenant, si vous pouvez vous regarder, allez, regardez-vous dans le miroir et vous verrez où vous en êtes. Voyez, vous pouvez le savoir. Vous dites, eh bien, je n'ai pas levé la main parce que je crois que je l'ai. Regardez-vous dans le miroir et vous verrez quel genre d'esprit vous séduit. Voyez, une pensée séduite, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce vrai?
Was a blood of life.
Fermez les yeux juste un instant et chantez-lui cela. Levons les mains.
Glory to his precious name. Glory to his name.
Vous, les chrétiens qui sont sauvés, j'aimerais que vous vous serriez la main les uns les autres.
Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His name. Oh, there to my heart was a blood.
Le sang contient le germe de vie, vous savez. Ceci s'adresse à ceux qui ne le connaissent pas.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge into day and be made come. Glory to His name. Oh, glory to
His name. Courbons la tête maintenant, alors que nous le chantons.
Glory to His name. There to my heart was the blood.
Vous l'aimez? Paul a dit, je chanterai par l'Esprit, j'adorerai par l'Esprit. Chantons-le de nouveau, tout doucement, avec les mains levées. Vous savez, le problème, c'est que nous, les pentecôtistes, nous avons perdu notre joie, nous avons perdu nos émotions. Comme Billy Graham l'a dit l'autre soir, ces prédicateurs au col retourné qui allaient dans le sud, qui frappaient dans les mains, qui trépignaient et qui martelaient le sol, ils avaient quelque chose qui leur procurait la joie. Eh bien, oui, j'ai quelque chose qui me procure la joie. Voyez, oui. Oui, nous avons perdu nos émotions. Maintenant, levons juste les mains. Ne vous inquiétez pas pour les larmes. Elles ne feront pas de mal. Voyez, ça ne fait pas de mal. Celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Très bien.
Glory to His name.
Ô Dieu, que Dieu soit loué. Seigneur, fais pénétrer la semence dans le cœur.